السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله سبحانه عز وجل en cette soirée du mercredi 14 Muharram 1434 de l'Hégire, correspondant au 28 novembre 2012, بإذن الله تعالى. إن شاء الله. Nous sommes toujours avec le livret « Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs ». Aujourd'hui, inshallah ta'ala, c'est le huitième cours où on va parler de l'importance de la prière de nuit chez les salafs, rahimahumullah ta'ala. Donc, on va commencer d'abord par ce qu'il y a dans le livre, inshallah, et ensuite, yani, on va ajouter d'autres choses, bi'idhnillah ta'ala. Voyez. Alors dans le livre, il a dit Abu Ghalib, rahimahullah, le servant affranchi de Khalid ibn Abdullah al-Qurashi rapporte. Il a dit Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, s'installait chez nous lorsqu'il venait à la Mecque. Il a dit lorsque Abdullah ibn Omar venait à la Mecque pour Umra ou bien Hajj, il s'installait chez nous et il priait la nuit. Il a dit une nuit, avant l'aube, il me dit « Oh Abu Ghalib, ne veux-tu pas te lever pour prier ? Ne veux-tu pas te lever pour prier ? Ne serait-ce qu'en récitant le tiers du Coran ? Ne serait-ce qu'en récitant le tiers du Coran ?» Alors Abu Ghalib a répondu l'aube est proche, subhanallah al-azim, l'aube est proche. Comment pourrais-je réciter le tiers du Coran? Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala, a répondu, Sourate al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran. Sourate al-Ikhlas équivaut au tiers du Coran. En fait, je dis, il y a un hadith authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui confirme cela, que Sourate al-Ikhlas, qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, que elle équivaut le tiers du Coran. D'après le hadith de Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le prophète sallam a dit ayadizu ahadukum an yaqra'a fi laylatin thuluth al-Quran, est-ce que l'un de vous se paresse à ce qu'il lise le tiers du Coran en une nuit? Qalu wa kayfa naqra'u thuluth al-Quran. Alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment qu'on peut lire? Comment qu'on lit le tiers du Coran? Il a dit qul huwa Allahu ahad ya'dilu thuluth al-Quran, rawahu Muslim. Il a dit qul huwa Allahu ahad, celui qui lit la sourate de qul huwa Allahu ahad, ça équivaut à un tiers du Coran. Et les savants ont dit, bien sûr, ils ont dit pourquoi spécialement un tiers du Coran. Bon, c'est pas cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je dis certains savants, yani ils ont quoi? Ils ont déduit cela. Ils ont dit, car le Coran, quand il parle de quoi? Toujours, il parle de l'une de ces trois choses. Ou bien aqidah tawhid, etc. Ou bien il parle fiqh, faire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ou bien il parle des nations. Ce qui s'est passé au Pharaon, ce qui s'est passé à, واسمه شعيب إبراهيم كوم سا سي كوم دي كونت ديزون دي ليستواغ. يقوله الله لا سورة تقول سا بارل دو كوا سا بارل سولمون دو التوحيد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. دونك سي ان تيير دو كوران. دونك لا سورة ا بارلي دو ان تيير دو كوران. نعم. يا اوسي اوتر شوز كو جو فودري اجوتي ايسي سي كو لو بروفيت صلى الله عليه وسلم كونت إلا دي كو قل هو الله احد سا ايكيفو ا ان تيير دو كوران. Ça ne veut nullement dire, ça ne veut nullement dire que, puisque c'est un tiers du Coran, donc je vais la lire trois fois. Je vais la lire trois fois et ainsi j'aurai lu tout le Coran. On va lui dire, c'est pas vrai, tu as inventé une chose de ta tête. Le prophète a dit que si tu l'as lu une fois, tu vas la lire une fois, Allah Ta'ala va te donner, yani comme récompense, l'équivalent de un tiers du Coran, c'est tout. Mais il n'a pas dit qu'il fallait la lire trois fois. Par contre, il y a un hadith authentique. J'ai oublié de le rapporter pour vous le citer. J'ai oublié. Où le prophète, parce qu'il ne m'est pas venu à l'esprit, il me vient maintenant. Où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le hadith authentifié par Sheikh Al-Albani, il a dit, quiconque lit, qul huwa Allahu ahad, 10 fois dans la journée, Allah Ta'ala lui construit une maison dans le paradis. Une maison ou bien un palais. Le doute vient de moi. C'est moi qui doute, j'ai oublié. Ça fait longtemps que j'ai lu le hadith, mais il est authentique. Donc, regardez ici, il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que tu peux lire, par exemple, 10 fois. Mais 3 fois, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu inventes de ta tête. Il y a un autre hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que je vais vous citer. Où le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Qul huwa Allahu ahad, ta'dilu thuluth al-Qur'an. »« Qul huwa Allahu ahad, équivaut à un tiers du Coran. » Naam. Non, c'est pas celui-là. Afon, c'est pas celui-là. Ça, c'est le même. Naam, c'est celui-là. Qul huwallahu ta'dilu thuluth al-Qur'an wa qul ya ayyuha al-kafirun ta'dilu rub' al-Qur'an. Authentifié par l'Albani dans le numéro 4405 Sahih al-Jami'. Qu'est-ce qu'il a dit alayhi sallam? Il a dit qul huwallahu ahad. C'est le tiers du Coran. Et قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ c'est un quart du Coran. Si tu as lu قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ c'est comme si tu as lu un tiers du Coran. Si tu as lu قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَفْوًا نعم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ c'est comme si tu avais lu un quart du Coran. Un quart du Coran. Et c'est pour ça que Abdullah ibn Omar a dit à cette personne, il lui a dit, yani, comment, pourquoi tu ne te lèves pas pour lire un quart du Coran, un tiers du Coran. Il parlait de قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Abdullah ibn Abi Malika, rahimahullah, a dit, j'ai voyagé avec Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, le sahabi, le très connu. Il a dit, j'ai voyagé avec Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, de Médine à la Mecque. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et il priait la moitié de la nuit. Et il priait la moitié de la nuit. Naam. Ça se trouve dans Zuhd de Abi Daoud, page 336. Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, a dit, écoutez ce qu'a dit Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, il a dit, la prière de nuit, elle anoblit l'homme modeste. L'homme qui est modeste, mutawadi', la prière de nuit l'anoblit, elle le rend noble. Et elle honore l'homme humble. Et l'homme qui est humble, qu'est-ce qu'elle fait? Elle l'honore, masha'Allah. Il a dit, et le jeûne, le fait de jeûner, bien sûr, les nafilas, surérogatoires. Et le jeûne coupe des désirs. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a conseillé celui qui ne pouvait pas se marier de quoi? De jeûner. Car le jeûne, ça affaiblit. Quand ça affaiblit, ça affaiblit en même temps les tentations et les désirs. Il a dit, le jeûne coupe des désirs. Il a dit, et le croyant ne dispose d'aucun repos avant l'entrée au paradis. Et le croyant ne dispose d'aucun repos. Avant quoi? Avant l'entrée au paradis. C'est vrai. Les gens, par exemple les kofars, et ceux qui sont non musulmans, etc. Par exemple, ils profitent de cette vie au maximum, ça, parce que pour eux, c'est là leur paradis. C'est là leur paradis. Il n'y a pas d'autre vie dans l'au-delà, ça. Ils vivent une seule vie. Donc, ils profitent au maximum. Ils veulent dormir au maximum, se reposer au maximum, prendre des vacances, prendre ceci, prendre cela. Le musulman, c'est quoi? C'est tout à fait le contraire. Ici, il est dans un champ, il doit labourer pour récolter demain quand il va mourir. Le kafir, non. C'est dans cette vie, il laboure et il récolte. Et le croyant, non. Il laboure ici, et il récolte là-bas. C'est pour ça que, en général, plus le musulman, le croyant, plus il se fatigue dans cette vie, plus c'est pour son intérêt. Il se fatigue pour mieux se reposer. Ici, plus tu t'es fatigué, plus tu vas voir le grand repos que tu vas avoir demain quand tu vas mourir et quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui ne s'est pas fatigué ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a fait aucun effort. Il a pris le nahda à la légère. Tout juste peut-être s'il priait. Donc demain, quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, il va le rencontrer avec les mains vides. Les mains vides. C'est comme quelqu'un qui va voir son compte, il va trouver le compte vide. Le compte vide, il n'y a pas d'argent dans le compte. Non. C'est pour ça que le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit que le paradis, il a dit que la dunya, cette dunya, c'est un quoi? Il a dit c'est une prison pour le croyant. C'est une prison pour le croyant. Et un paradis pour qui? Pour celui qui ne croit pas, pour le mécréant. C'est un paradis. Naam. Ad-dunya jannatu al-kafir wa sijnu al-mu'min. Mais pour le croyant, c'est quoi? C'est une prison. Pourquoi? Car tu ne peux pas, tu veux toi. Naam. Tu ne peux pas yani, répondre à tous tes désirs et tes tentations. Il y a quoi? Il y a une législation qui est une sharia. Il y a Coran qui te guide. Alors que celui qui est mécréant, il fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut? Passion, tentation, désir. C'est tout. Ce qu'il veut, il le fait. Toi, non. Tu te prives. Tu es dans une prison. Tu te prives. Mais tu te prives pourquoi, en fin de compte? Tu te prives pour avoir tout demain quand tu meurs. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout ici dans le paradis pour que demain quand il meurt, il ne trouve que le feu qui l'attend. Aoudou billah. Al-Muhim. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulillah. Uthman ibn Atta al-Khurasani, rahimahullah, rapporte, il a dit, on disait que la prière de nuit était la source de vie du corps. On disait, c'est-à-dire les salafs disaient, que la prière de nuit était la source de vie du corps, la lumière du cœur, la clarté de la vue et la force des membres. Si l'homme prie la nuit, il se lève joyeux, c'est-à-dire le matin, et ressent la joie en son cœur. Alors que s'il dort sans réciter sa partie quotidienne, sans prier ni réciter, son hizb, par exemple, son wird, il se lève triste, le cœur brisé, comme s'il avait perdu quelque chose. Et il a certes perdu ce qui lui est le plus utile. Et il a certes perdu ce qui lui est le plus utile. Je répète, on disait que la prière de nuit, c'était la source de vie du corps, la lumière du cœur, la clarté de la vue et la force des membres. Et si l'on prie la nuit, il se lève joyeux le matin et ressent la joie en son cœur. Alors que s'il dort sans réciter sa partie quotidienne, il se lève triste, le cœur brisé, comme s'il avait perdu quelque chose, et il a certes perdu ce qui lui est le plus utile. Ce que dit ce savant, rahimahullah, et ce salaf, naam, ne peut être compris que par les gens qui connaissent c'est quoi la prière de nuit et qui ont l'habitude de la faire. Naam. Celui qui n'a pas l'habitude de prier à la nuit, peut-être pour lui, il va dire, ce qu'a dit cette personne-là, c'est une chose étrange. Je n'ai rien compris comment la prière de nuit, elle est la source de vie du corps, elle est la lumière du cœur, la clarté de la vue, la force des membres, et que si on prie la nuit, on se lève joyeux, on ressent la joie en son cœur, et que si on ne fait pas ça, on se lève triste, le cœur brisé. Là. Celui qui n'a pas l'habitude de prier la nuit, il ne peut pas ressentir ce que dit cette personne. Car, c'est un peu comme, je ne sais pas, quelqu'un par exemple qui est dans un tunnel. Quelqu'un qui est dans un tunnel ou bien dans un puits, dans un gouffre. Si tu lui parles, toi, de ce qu'il y a dehors, comme lumière, le soleil, mashallah, éclatant, etc., il ne va pas te comprendre. Non. Il n'a vécu que quoi? Dans un gouffre, dans un puits. Il est dans un tunnel. Il faudrait qu'il sorte pour qu'il comprenne. C'est un peu comme ceux qui se reconvertissent, ceux qui n'étaient pas dans l'islam. Qu'est-ce qu'ils savaient de l'islam? L'islam, c'est barbarie, c'est terrorisme, et ceci, cela. Mais, quand ils embrassent l'islam, et ils connaissent l'islam, la vérité de l'islam, ils savent alors que quoi? Qu'il était vraiment, vraiment, vraiment loin, et noyé dans l'obscurité et les ténèbres. La même chose, la prière de la nuit, celui qui n'a pas l'habitude de la faire, comme nous tous, ou en général, donc, yani, on comprend pas bien la portée des paroles de ce qu'a dit ce self, rahimahullah. Mais si quelqu'un prie la nuit et fait de ça yani, une habitude, le fait de temps en temps, alors qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va ressentir que vraiment, il est devenu une autre personne. Une joie indicible, qu'on ne peut pas décrire, une joie qu'il va ressentir. Et les jours où il ne va pas se lever, les nuits où il ne va pas se lever pour prier, le lendemain, il va se sentir yani, vraiment avec un cœur brisé, un cœur chagriné, un cœur gros. C'est pour cela que les selfs donnaient beaucoup, beaucoup d'importance à la prière de nuit. Et quand ils voyageaient ensemble, toute la moitié de la nuit, il a passé en prière. C'était devenu pour eux une habitude. Regardez ici, j'ai un hadith avec moi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce qu'il dit ici. Atani Jibril, Gabriel est venu et m'a dit, Ya Muhammad, ô Muhammad, ish ma shi't fa innaka mayit. Ô Muhammad, vis comme tu peux. Tu mouriras. Tu mourras. Vis ce que tu veux. 100, 200, 300 ans. Tu dois mourir. Wa ahbib man shi't fa innaka mufariqhu. Et aime qui tu veux. Aime qui tu veux des personnes. Tu dois te séparer de lui un jour. Aime qui tu veux. Tu dois te séparer de lui un jour. Wa amal ma shi't. Et œuvre comme tu veux. Fais ce que tu veux. Fa innaka mujziun bih. Tu en seras rétribué. Fais ce que tu veux, tu en seras rétribué. Si c'est du bien, alhamdoulilah, c'est du mal, donc ce sera du mal. Wa'alam, c'est ça le témoin du cours. Et sache, wa'alam anna sharaf al-mu'min qiyamuhu al-layl. Et sache que l'honneur du croyant, c'est quoi? L'honneur du croyant, c'est sa prière de la nuit. Et sache que l'honneur du croyant, c'est sa prière de la nuit. C'est ça le témoin du cours. L'honneur du croyant, c'est quoi? C'est sa prière de nuit, s'il prie la nuit. Et sache que sa fierté, quand quelqu'un dit il est aziz, il est fier, c'est quoi? C'est le fait qu'il ne dépende pas des gens. C'est le fait qu'il ne dépende pas des gens. Cheikh Al-Albani a dit hadith Hassan. Bon. Voir hadith 73 dans Sahih Al-Jami'. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith, ce hadith de plus important? C'est que quoi? C'est que sache que ton honneur se trouve où? Quand tu fais la prière de la nuit. Et que, il a dit, et ta fierté, c'est quand? Quoi? C'est quand tu ne dépends pas des gens. Tu ne dépends pas des gens. C'est pas comme les gens qui, yani, D'où l'interdiction de tendre la main en islam. L'interdiction de tendre la main pour demander quelque chose à quelqu'un si vraiment, vraiment, tu n'es pas dans la daroura. Quand tu tends ta main à quelqu'un, tu vas dépendre de lui, que tu veuilles ou pas. Tu dépends de lui. Si ce n'était pas lui, tu ne serais pas donc dans cet état-là. Puisque c'est lui qui te donne, qui ceci, qui t'aide. C'est pour ça que le prophète Hassan m'a dit quoi? a dit que la main est mieux que la main du dessous. C'est-à-dire celui qui donne est mieux que celui qui quoi qui reçoit. Naam. Ibn Abi Zinnad, rahimahullah. Ibn Abi Zinnad, rahimahullah, rapporte de son père, Il a dit, je sortais en de nuit pour me rendre à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne passais pas devant une porte sans entendre quelqu'un réciter. Vous voyez comment étaient les salafs? Il a dit, quand j'allais à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en fin de nuit, c'est-à-dire avant le fajr, il a dit, jamais je ne passais devant une porte d'une maison sans y entendre quelqu'un à l'intérieur réciter, ou bien réciter le Coran en lisant, ou bien réciter le Coran en priant. En priant, comme ça vivaient les salafs. Le dernier de la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala descend, comme vous savez. Donc ils profitaient pourquoi? Pour se lever, ou bien lire le Coran, ou bien prier, ou bien alors seulement faire l'istighfar et faire des douas comme ça. Naam. Thabit al-Bunani rahimahullah. Thabit al-Bunani rahimahullah a dit, je ne trouve rien de plus délectable que la prière de nuit. Je ne trouve rien de plus délectable qui a la saveur, masha'Allah. La saveur, naam. Je ne trouve rien de plus délicieux, délectable que la prière de nuit. Naam. Pour ceux qui savent, qu'est-ce que ça veut dire la prière de nuit et comment pendant la journée, comment tu sens, comme on l'a dit tout à l'heure, tu sens ton cœur brisé. Ton cœur, il n'est pas yani, là comme un shaitan d'encore qui voudrait te pousser à faire le haram. Non, ton cœur, khlas, il est quoi? Il est brisé. Khlas, il est prosterné. Tu sens que ton cœur, c'est toi qui le commande. Bidlillah subhanahu wa ta'ala, naam. Et la joie que tu sens à l'intérieur de ton cœur, elle est, comme j'ai dit, indicible. On ne peut pas la décrire. Naam. Et il a dit, je ne trouve rien de plus délectable que la prière de nuit. Naam. Et qu'est-ce que ça donne aussi la prière de nuit? Ça donne que, puisque le cœur devient brisé, tu as vite les larmes aux yeux pendant la journée. Dès que tu parles de din, ou bien tu pries, ou bien ceci, ou bien tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala, à l'au-delà, juste, vite tu as les yeux qui larmoient. Pourquoi? Car il y a une grande relation, que vous savez, entre par exemple les yeux qui larmoient et le cœur qui est brisé. Car si le cœur, comme j'ai dit, n'est pas brisé, il veut quoi? Il veut s'envoler, il veut danser, il veut chanter, il veut... Mais toi, tu l'as brisé avec la prière de la nuit. Il est là, il y a un nez tout gentil, enfin, il ne bouge pas. Et toi qui le commande, et il commence à quoi? Il commence à yani, donner des larmes aux yeux, etc. pendant la journée. Abu Sulayman rahimahullah a dit, les adeptes de la prière de nuit éprouvent dans la prière plus de délectation et de délices que les adeptes des passions ont leur passion. Allahu Akbar. Si vous expliquez. Les adeptes de la prière de nuit éprouvent dans la prière de nuit, plus de délectation que les adeptes des passions dans leur passion. Et si ce n'était la prière de nuit, je n'aurais pas aimé demeurer en ce bas monde. Comme ça il dit ce salaf. Et si ce n'était pas la prière de nuit, je n'aurais pas aimé demeurer en ce bas monde. C'est-à-dire, ce qui me retient dans ce bas monde, et, alhamdoulilah, yani, j'y reste, je patiente, c'est quoi? C'est qu'il y a la prière de nuit. Il a dit, s'il n'y avait pas la prière de nuit, jamais je n'aurais voulu yani, rester dans ce bas monde. Donc, alhamdoulilah, il y a la prière de nuit. Et il a dit que ceux qui font vraiment la prière de nuit, ils trouvent plus de plaisir dans la prière de la salat de nuit que les gens de passion dans leur passion. Subhanallah al-Azim. Al-Fawzil ibn Ayyad, rahimahullah. J'ouvre une parenthèse pour vous dire une chose. C'est pas la peine de vous dire, comme je l'ai dit une fois, que tout ce que je dis, ça a quoi? Ça a, yani, l'endroit où ça se trouve. Les trouve avec la page, etc. Mais j'ai dit que je ne vais pas vous dire ça juste pour gagner du temps. Mais que personne qui m'entend dire une chose, elle peut dire à la fin du cours, telle chose ou la telle phrase, elle se trouve, barakallahu fikoum, dans quel livre et dans quel tome et dans quelle page. Al-Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit, je commence la prière au début de la nuit. Et sa longueur m'effraie. Je commence la prière au début de la nuit, vers 10h du soir ou la 23h là, et sa longueur m'effraie. Je dis, où est le matin? Il reste 7-8 heures. Comment je vais faire? C'est long. Il a dit, je débute alors la lecture du Coran, je débute la récitation, et je parviens au matin sans avoir satisfait mon désir. Et voilà que c'est déjà le matin et je n'ai même pas satisfait le désir. J'ai encore des doigts à faire, j'ai encore des tesbihs à faire, je voulais encore dire des choses. Khlas, c'est le matin. Pourquoi? Tellement ça passe vite. Et comment ça s'est vite passé? C'est des heures et des heures. C'est le khushu'a. C'est l'humilité. C'est l'humilité. Quand quelqu'un commence à lire dans la salade, surtout la nuit, c'est pas comme le jour. Tu es seul. Seul dans. Tout le monde est en train de dormir. Ensuite, tu commences à penser à la tombe. Tu dis demain. C'est comme ma tombe seule. Surtout si la personne prie dans l'obscurité totale, dans la. On va dire demain, donc, c'est comme ça je serai seul. Personne ne sera à mes côtés. Ensuite, la personne va penser à la descente d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala maintenant vient de descendre. Et que vous connaissez le hadith. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me demande, je lui donne. Quelqu'un qui demande pardon, je lui pardonne. Quelqu'un qui cherche le refuge auprès de moi, je lui donne mon refuge. Et comme ça. Donc elle va sentir un khushu', et elle va vite s'oublier. Elle va vite s'oublier et voilà que c'est le début du matin. On demanda à Hassan Basri, on lui a demandé, pourquoi ceux qui prient la nuit comptent-ils parmi ceux qui ont les plus beaux visages? On a demandé, Hassan lui a dit, pourquoi les personnes qui prient la nuit, pourquoi ils comptent parmi ceux qui ont les plus beaux? Il a répondu, car ils se sont isolés avec la lumière du miséricordieux dans les ténèbres. Et ainsi, il les a habillés d'une de ces lumières. Allahu Akbar. Naam. Pourquoi celui qui prie la nuit, il a un visage, masha'Allah, resplendissant de lumière. Naam. Resplendissant de lumière. Regardez la différence entre quelqu'un qui est seulement croyant, c'est pas qui prie la nuit, qui est seulement croyant et sincère. Regardez la différence, regardez son visage et regardez le visage alcoolique et de quelqu'un qui prend la drogue, etc., et qui fait la fornication, qui fait ces choses-là. Différence dans les visages. Qu'en est-il si on va comparer entre cette personne dont je viens de parler, qui fait les grands, et entre un savant, par exemple, les visages. Le savant, c'est quoi? C'est le jeûne et la prière de la nuit. Et l'ilm, mais mashallah, il est très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous allez trouver quoi? Une grande différence. Voyez seulement, il y a les corps des morts. Des morts. Vous voyez par exemple quelqu'un mort qui est mort. Vous voyez son visage, s'il est kafir, et le visage du musulman, vous allez trouver qu'il y a une grande différence. Qu'en est-il si le musulman, c'était yani un savant, mashallah, dans le kitab ou sunnah? Il vraiment, y a rien qu'à voir, à méditer sur les corps. Normalement, y a ni, on devient guidé. On dit, subhanallah, c'est là, y a ni un grand signe d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ici, le Hassan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Allah Ta'ala a au visage à ceux qui prient la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils se sont isolés avec la lumière du milieu de cordieux dans les ténèbres. Et ainsi, Allah Azzawajal les a habillés d'une de ces lumières. Naam. De qui? Du miséricordieux. La lumière de celui qui passe la nuit à dans la discothèque. Ce n'est pas cette lumière-là, non. Là, c'est une fausse lumière qui mène à l'enfer, qui mène à Jahannam. Justement, c'est la lumière du shaitan. Mais la lumière que donne Allah Ta'ala à celui qui prie la nuit, à celui qui fait des obéissances, celui-là, sa lumière vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une nuit, Habib al-Ajami, Habib al-Ajami, rahimahullah, dormit. Il s'est endormi. Et sa femme le réveilla en fin de nuit. Sa femme le réveilla en fin de nuit et lui dit, lève-toi, écoutez ce qu'elle lui dit, lève-toi, car la nuit est passée. Le jour arrive. Tu as une longue route devant toi. Peu de provisions. Et la caravane des pieux est partie. Alors que nous, nous sommes toujours là. Vous voyez la femme pieuse, comment qu'elle dit à son mari? Lève-toi, lève-toi, car la nuit est passée et le jour est arrivé. Ensuite, tu as une longue route devant toi. C'est pas la route, il va voyager d'Alger, je ne sais pas où, à Oran. Non, la route vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as une longue route devant toi. Peu de provisions. Tu n'as pas prié la nuit. Peu de provisions. Et la caravane des pieux est partie. La caravane des pieux, eux, ils ont prié la nuit et maintenant c'est le jour. Elle est partie. Alors que nous, toujours là, sur nos lits, ou là, notre lit, en train de dormir. Non. Subhanallah al-Azim, ça me rappelle une chose. Ça me rappelle une fois, je connaissais quelqu'un qui, yani, alhamdoulilah, yani, il était loin, ensuite, alhamdoulilah, yani, comme tout le monde, et dans le din, ceci, cela, il commence à appliquer. Mais cette personne avait quoi? Avait, disons, si je puis dire, ce défaut de vite, il monte et il descend. Vite, les bas et les hauts. Vite, il ressent les délices dans son cœur, ceci, cela. Ensuite, la semaine qui va venir, il est là, ici, je peux pas, et ceci, ma foi est faible, ma foi régresse. C'est pas bien quand on a des bas et des hauts comme ça tout le temps. C'est pas bien. De temps en temps, ça arrive à tout le monde. De temps en temps, de se trouver, de trouver que la foi régresse. De temps en temps, mais pas tout le temps. Alors, cette personne, comme j'ai dit, vous voulez se marier. Je lui ai dit, écoute, je vais te proposer une sœur qui a, mashallah, à l'époque, une licence en sharia. Une licence en sharia. Vous allez voir le témoin du cours. Une licence sharia. Donc, yani, ça va t'aider, bi'idhnillah ta'ala. Ça va t'aider, yani, femme, tu te maries avec une femme qui est une toi qui est comme ça, assez faible, etc. Inch'Allah ta'ala, ça va t'aider dans le fait d'écouter d'elle, d'apprendre. Il était très content. Na'am, c'est vrai, mashallah, d'amener. Ils se sont mariés. Celle dont je parle maintenant, celle qui avait une licence, maintenant elle a le doctorat. Maintenant, elle a le doctorat dans la sharia. El Mohim, ils se sont mariés. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après le 2 ou 3 mois ou là, subhanallah, pourquoi j'ai dit maintenant, c'est ce qu'elle lui disait ici dans le livre. Elle lui disait, une seconde, qu'est-ce qu'il disait? Elle lui disait, lève-toi car la nuit est passée, le jour arrive, tu as une longue route devant toi. Peu de provisions, la caravane des puits est partie, alors que nous sommes toujours là. Donc elle le réveillait pour Salat al-Fajr, la sœur qui s'est mariée avec lui, yani, le réveillait, entre autres, ce qu'elle faisait, le réveillait pour. Qu'est-ce qu'il lui disait? Pas. Moi je suis Pharaon, je prie pas. Non, là je. Subhanallah l'adim, j'ai dit, subhanallah l'adim, comment? Toi qui cherches. On s'est dans le din, donc tu cherches une femme, mashallah. On t'a ramené une soeur, mashallah. Licence fi sharia. Et il te réveille pour ça, tu fais quoi? Tu dis, moi je suis pharaon, moi je veux pas prier, allez, laisse-moi dormir. Et il commence à l'insulter, etc. Subhanallah l'adim. Hasbunallah, ni'm al-wakil. Hawla wa la quwwata illa billah. Mansour ibn al-Mu'tamir, rahimahullah, priait sur son toit la nuit. Pourquoi il priait sur son toit? Ou bien leur maison était donc il n'y avait pas de place de maison. Ou bien il y a une autre solution. Ou bien, Allah ta'ala alam, pour ne pas faire quoi? D'ostentation. Rien. Pour s'éloigner de l'ostentation. Donc, quand il prie sur le toit, qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait où il est ni ce qu'il fait. Al-Muhim. Un jour, il mourut. Et un enfant a dit à sa mère, Maman, je ne vois plus le tronc sur le toit de la famille d'un tel. Maman, qu'est-ce qui se passe? Le tronc sur le toit de la famille d'un tel, je le vois plus. Elle lui répondit, oh mon enfant, il ne s'agissait pas d'un tronc, mais c'est Mansour. Mais c'est Mansour ibn al-Mu'tamir qui est mort, rahimahullah. C'est pour ça que tu vois plus le tronc. En fait, ce n'est pas un tronc. C'est Mansour ibn al-Mu'tamir qui est mort, rahimahullah. C'est pour ça, mon enfant, tu ne vas plus voir ce tronc sur le toit. Allahu Akbar. Lorsque Taous, rahimahullah, un des grands savants des tabi'in, lorsqu'il s'allongeait dans son lit, il s'agitait comme le grain dans la poêle. Puis il se levait et priait jusqu'au matin. Et il disait, le rappel de l'enfer a fait voler en éclats le sommeil des adorateurs. Je voulais dormir, Naam, mais le rappel de l'enfer a fait voler en éclats le sommeil des adorateurs. Sofiane Thouri, rahimahullah, a dit, je me réjouis lorsque survient la nuit. Pourquoi? En raison de l'intensité de mon amour pour la prière de nuit. Vraiment, il dit, quand la nuit arrive, je me réjouis. Je trouve un grand plaisir dans mon cœur. Pourquoi? En raison de l'intensité de mon amour pour la prière de nuit. Abdelaziz ibn Abi Rawad, rahimahullah, rapporte, il a dit, lorsqu'il mourira, Ibn Hakim al-San'ani, lorsqu'il mourira, Ibn Hakim al-San'ani, rahimahullah, voulait prier la nuit, il portait ses plus beaux habits et mettait du parfum de son épouse et il comptait parmi ceux qui priaient la nuit. Non. Lorsqu'il voulait prier, il mettait ses plus beaux habits et mettait du parfum de son épouse. Non. Pourquoi? Parce que quand on va prier, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, n'est-ce pas? Continue de Allahu Akbar. Ensuite, qu'est-ce que tu dis? Alhamdoulilah, tu es en train de parler avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la salat, c'est pour le rencontrer. Quand tu dis Allahu Akbar, khlas, tu es en relation directe avec lui. Est-ce que tu aimerais si le ministre ou alors le président de la République ou bien un roi t'invitait, s'il t'invitait, est-ce que tu aimerais aller chez lui en pyjama ou bien en vêtements comme on dit ici, Changai ou bien en jean, tu vas chez l'autre, chez le roi. C'est sûr que ce jour-là, tu t'habillerais de tes plus beaux habits. Ça pour aller rencontrer une personne comme toi. Une personne comme toi qui mange, qui va aux toilettes, qui vomit, qui. Donc tu t'habilles de la plus belle façon et tu mets le plus beau parfum. Qu'en est-il maintenant quand tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala? Comment acceptes-tu donc de prier avec yani, tes habits qui sont sales et avec les habits avec lesquels tu dors et avec des habits, je ne sais pas. Non. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? خذوا زينتكم عند كل مسجد. خذوا زينتكم. Prenez votre parure. Non. خذوا زينتكم عند كل مسجد. Dans chaque endroit où vous allez prier, chaque moment où vous allez prier, il a dit, prenez votre parure. Prenez votre parure. Quand tu vas prier, rappelle-toi toujours quoi? Rappelle-toi que tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as à choisir entre deux vêtements, ne dis pas, ça ne fait rien, aïe, Mohem, je prie. Non, choisis toujours le plus bel habit, le plus bel. Non, si tu as du parfum devant toi, si tu es un homme, maison, mets du musc pour aller prier. Non, car tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yu'azzim sha'a'irallah, fa'inna min taqwa al-qulub. Celui qui donne de l'importance à ces choses-là, c'est quoi? C'est une preuve. Non, c'est une preuve de quoi? De que son cœur est né. Yani, reconnaît yani, la valeur de ces choses-là. C'est une preuve de piété du cœur, comme dit le Coran. Regardez les gens à la mosquée. Là, quand il est à la maison, là, il s'habille, mashallah. Quand il va au travail, il s'habille, mashallah. Quand il veut aller à la mosquée, il s'habille n'importe quoi. Il s'habille n'importe quoi. C'est-à-dire ils font exactement le contraire. Al-Dhahhak, rahimahullah, a dit, j'ai connu des gens qui étaient gênés devant Allah Azzawajal de s'être trop assoupi au début de la nuit. J'ai connu des gens qui étaient gênés devant Allah subhanahu wa ta'ala de s'être trop endormi. S'être trop assoupi ou bien endormi en début de la nuit. Abu Ishaq Sabi'i rahimahullah a dit, je ne suis plus en bonne santé. Écoutez ce qu'a dit ce salaf. Il a dit, je ne suis plus en bonne santé. J'ai faibli. Et mes os sont fragiles. Mes os sont fragiles. Si bien qu'aujourd'hui, lorsque je prie, je ne récite plus que Al-Baqara et Al-Imran. Je suis donc quoi? Je suis peiné. Quand je prie maintenant la nuit, je suis faible. Mes os sont fragiles. La preuve, je ne prie seulement qu'avec quoi? Avec Al-Baqara et Al-Imran. Vous savez Al-Baqara? C'est 5 hizb, presque 5 hizb. Baqara et Imran, si tu vas les lire dans la salat, ça prend à peu près 3 heures. Il a dit donc, je suis faible là, il faut m'excuser. Et mes os sont fragiles. On va dire donc, comment tu priais quand tu étais fort et jeune? Celui-là, il est âgé maintenant. Ici, il demande pardon. Il dit, je demande pardon, je ne peux lire que le Baqara et Ali Imran. Excusez-moi. Subhanallah l'adhim. Donc, comment qu'il faisait celui-là quand il était jeune? Ibrahim ibn Shimas, rahimahullah, a dit, je connaissais Ahmed ibn Hanbal. Vous connaissez Ahmed ibn Hanbal, le grand savant. Il a dit, je le connaissais lorsqu'il était enfant. Et lorsqu'il était enfant, il priait la nuit. Allahu Akbar. Il a dit, je connaissais Ahmed ibn Hanbal, tout enfant. Et lorsqu'il était enfant, qu'est-ce qu'il faisait? Il priait la nuit. Allahu Akbar. Nous, nos enfants, la journée, pour prier, c'est difficile. Du matin au soir, il faut lui dire, va prier, va faire le wudu, va prier, va à la mosquée. Est-ce que tu es à la mosquée? Est-ce que tu as fait l'or? Est-ce que tu as fait asr? Est-ce que tu as fait maghreb? Et tu demandes. Pour la journée, c'est pas sûr qu'ils le font. Et des fois, ils te ment. Ils te disent, j'étais à la mosquée alors qu'il était chez un ami. Naam. C'est ça les enfants. Et c'est ça nos enfants. Subhanallah l'adhim. Ahmed ibn Hanbal, il a dit, quand il était jeune, il a dit, je le connaissais, il priait la nuit. Donc un enfant de, je ne sais pas, 7 ans ou là, 8 ans ou là, qui prie la nuit, sans qu'on le pousse. Ça veut dire que c'est quelqu'un que Allah Ta'ala a sûrement choisi pour le préparer, pour qu'il devienne quoi? Il y en a quelque chose, pour qu'il devienne un grand savant. Non. Est-ce que vous avez remarqué que nos enfants prient la nuit? C'est très rare, très rare. Donc si un enfant tout seul, il va choisir de prier la nuit, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui va avoir vraiment un statut particulier dans la Umma. Abu Uthman al-Nahdi rapporte, il a dit, j'ai reçu Abu Huraira pendant 7 jours. J'ai reçu comme invité Abu Huraira pendant une semaine. Lui, son épouse et son servant, se partager la nuit. Le premier priait, puis réveillait le deuxième, qui priait, puis réveillait le troisième. Là, c'est comme ça qu'il faisait. Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, priait la nuit et disait, Nafi', c'est son valet, Nafi', sommes-nous à la fin de la nuit? S'il lui répondait non, ce n'est pas encore la fin de la nuit, il retournait prier. Et s'il répondait oui, il s'asseyait et formulait des demandes de pardon. Istighfar. C'est comme ça qu'étaient les sahaba radiallahu ta'ala anhum et les salafs. Il priait, il y en a beaucoup la nuit. Sinon, après avoir prié, il s'asseyait et faisait des doigts, il faisait des invocations et istighfar. Soufiane rapporte, Amr ibn Dinar partageait sa nuit en trois. Il dormait un tiers, étudiait le hadith un autre tiers et priait le dernier tiers. Salam rapporte, rahimahullah, il a dit, Ayyub Sirtiyani, rahimahullah, priez la nuit, mais le cacher. Non, le cacher. Quand on prie la nuit, c'est pas la peine de dire à son épouse ou à ses enfants là, que je prie la nuit. Et lorsque l'aube arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il élevait la voix comme s'il venait de se lever. Allahu Akbar. Donc, tellement yani, c'était sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y avait pas d'ostentation ni rien, au point où yani, sa femme la plus proche ne savait pas. Il priait, priait, priait. Eux, ils croient qu'il est en train de dormir. Et quand il voit quelqu'un venir là, il fait semblant que comme s'il venait de se lever. Comme s'il venait de se lever, il élève la voix, comme si quelqu'un qui vient de se lever maintenant. Subhanallah, pour yani, s'enfuir de quoi? De l'ostentation. On va terminer avec ceci, inshallah ta'ala. Asim ibn Asim al-Bayhaqi rapporte. Asim ibn Asim al-Bayhaqi rapporte. Il a dit, j'ai dormi une nuit chez Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. J'ai dormi une nuit chez Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et il m'apporta de l'eau. Il m'apporta de l'eau. C'est-à-dire que il n'y avait pas comme de nos jours, yani la salle de bain où là, la personne se lave et elle va faire l'eau d'eau là. Non, il te ramène un peu d'eau dans ta chambre. Il a dit, il me ramena un peu d'eau. Au matin, il a dit, il regarda et remarqua que l'eau n'avait pas bougé. Alors il me dit, alors Ahmed m'a dit, Ahmed ibn Hanbal, gloire à Allah. Il a dit, Subhanallah. Un homme qui recherche de la science, mais ne prie pas la nuit, il me dit comme ça. Il m'a dit, Subhanallah. Yani, tu n'as pas touché à l'eau. Ça veut dire, tu n'as pas fait le wudu. Ça veut dire donc, tu n'as pas prié la nuit. Il a dit, Allahu Akbar. Tu es venu, yani, passer la nuit chez moi. Yani, donc, tu demandes la science. Et tu pries pas la nuit. Yani, c'est comme s'il voulait dire, ça peut pas exister. Ça peut pas exister quelqu'un qui demande la science et qui en même temps dort toute la nuit. Il a dit non, ça n'existe pas. Et le Hassan ibn Ziyad rapporte, il a dit, Al-Fudayl ibn Ayyad rahimahullah me prit par la main un jour et me dit, Fudayl m'a pris par la main et m'a dit, oh Hassan, Allah Azza wa Jal descend au ciel de ce bas monde et dit, Allah Azza wa Jal descend au ciel de ce bas monde et dit, que dit Allah Ta'ala, il dit, ment, c'est un menteur, ment celui qui prétend m'aimer, mais dort lorsque la nuit le couvre. Allah Ta'ala dit, ment celui qui prétend m'aimer, mais dort lorsque la nuit le couvre. Celui-là, ça ne doit être qu'un menteur. Et moi, tout ça, c'est ce qu'il y a, Inch'Allah Ta'ala, dans le livre pour la prière de la nuit. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Moi, je vais vous ajouter deux ou trois choses qui ne sont pas dans le livre. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala quand il a parlé dans son livre, dans le Coran, de ceux qui prient la nuit, ce qu'il a dit, entre autres. Il a dit le verset là, regardez. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire les éloges de certains gens, des pieux. Il a dit, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. C'est-à-dire en français à peu près, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. C'est ça, yani le témoin. Et ils font largesse, bon, ils font l'aumône. Mais ce qui nous intéresse, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur en priant la nuit, ou du moins en lisant le Coran la nuit. Pourquoi? Par crainte et espoir. Khawfan wa tama'an. En même temps, ils font l'aumône de leur argent. Pourquoi il a employé le verbe ils s'arrachent de leur lit? Pour te dire que c'est difficile de quitter le lit la nuit. Ce n'est pas facile. Peut-être qu'il pleut dehors, il fait froid, il y a la neige, peut-être. Et toi, tu vas laisser la couverture pour te lever, pour aller prier, alors que ce n'est pas obligatoire. Si au moins c'était obligatoire, tu dois prier, tu as peur. Si tu pries pas, c'est des péchés, c'est l'enfer, c'est la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, c'est pas obligatoire. Personne ne t'a dit, tu dois prier. seulement si toi tu veux. C'est pour cela que si tu te lèves et tu pries, donc c'est une grande preuve de ta sincérité et de ton amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as délaissé la chose la plus aimée pour toi, c'est le lit et le sommeil. Et tu t'es arraché de lui. Le lit ne veut pas te quitter, mais tu t'arraches de lui pour aller prier. Rappelez-vous le hadith. Wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Fa'idha ahbabtahu kuntu basarahu. Et à la fin du hadith. الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع به يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إنسان أني لا أعطينه ولا إنسان لأعيدنه dans un autre hadith بي يسمع بي يبصر بي يمشي سبحان الله العظيم الله تعالى dit et mon serviteur ne cesse de faire des choses surérogatoires des nafila jusqu'à ce que je l'aime et si je l'aime خلاص Je serai le pied avec lequel il marche, je serai la main avec laquelle il prend, je serai la vue avec laquelle il voit, je serai l'audition avec laquelle, lui avec laquelle il entend. Et comme ça, s'il me demande, je lui donne. S'il veut se réfugier auprès de moi, je le réfugie. Non. S'il veut faire ça, je lui pardonne. Et comme ça. C'est quoi? C'est la nafila. Non. Regardez dans un autre... Et regardez ici ce qu'il a dit. Hein. C'est une parenthèse, c'est tout. Il s'arrache de leur lit pour invoquer leur Seigneur, par crainte et espoir. Crainte de quoi? Crainte de l'enfer. Et espoir de quoi? Espoir de rentrer au paradis. Donc là, il y a une preuve. Il y a une preuve. Non, c'est une gifle, disons. Une gifle au Mubtadi'a. Au Mubtadi'a, qui disent quoi? Qui disent que nous, on adore Allah pour Allah. Ni on apporte son enfer, ni quoi? Ni on espère à son paradis. Il te dit, toi, si tu adores Allah Ta'ala par peur de l'enfer, ça veut dire que tu n'as pas adoré Allah. Et si tu l'adores par espoir de paradis, donc tu veux seulement le paradis, tu ne veux pas Allah. Nous, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, tu es un égaré. Allah Ta'ala, quand il a fait les éloges de certains gens, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il l'adorait par crainte et espoir. Il leur a fait les éloges, il a dit, ceux-là, ce sont les vrais gens. Ceux qui m'adorent par crainte et espoir, ils ont peur de mon enfer et ils espèrent rentrer dans mon paradis. Naam. Même il a dit ça de même des prophètes dans le Coran. Naam. Regardez un autre verset pour la prière de la nuit. Ce verset-là. Est-ce qu'il s'est affiché, muslim? Et voilà. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. وبالأسحارهم يستغفرون الله تعالى dit de certains gens ils dormaient peu la nuit ça veut dire ils passaient la plus grande partie de la nuit en prière et aux dernières heures de la nuit ils imploraient le pardon d'Allah Naam. Regardez Allah تعالى en faisant les éloges de certains gens qu'est-ce qu'il a dit c'est pas ils dansaient toute la nuit il a dit ils dormaient peu la nuit peu car ils passaient la plus grande partie de la nuit en prière et aux dernières heures l'heure de la descente de l'Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas ils ronflent, non. Ils imploraient le pardon d'Allah. Ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais ajouter ici un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, écoutez ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Alaykum bi qiyam al-layli » فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله تعالى ومنهات عن الإثم وتكفير السيئات شيخ الألباني هذا صحيح صحيح الجامع 4079 عليكم بقيام الليل يعني je vous conseille قيام الليل je vous conseille la prière de la nuit pourquoi فإنه دأب الصالحين قبلكم c'est le chemin et le sentier des pieux avant vous. Si tu veux être dans le même sentier qu'eux, tu veux suivre leur chemin pas à pas, voilà ce qu'ils faisaient. Ils faisaient la prière de nuit, premièrement. Wa qurbatun ilallahi ta'ala. Deuxièmement, la prière de nuit, ça rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, manhatun an al-ithm. La prière de nuit t'éloigne. T'éloigne de quoi? T'éloigne des péchés. Quatrième chose qu'il y a dans la prière de nuit, et elle annule quoi? Les péchés. Elle l'annule. Ce qui me plaît ici beaucoup dans ce hadith, demandez à ceux qui prient la nuit, vous le diront. Demandez à ceux, ou à ceux d'entre vous, qui ont l'habitude de prier la nuit, savent, naam, savent ce qu'il y a dans ce hadith à la troisième chose, lorsqu'il a dit, وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ. Il a dit, ça éloigne des péchés. Quand quelqu'un a l'habitude de prier la nuit, le matin, il remarque quoi? Et pendant la journée, il est loin des péchés. Il a, comme j'ai dit, le cœur brisé. Son cœur n'est pas yani, là vivant pour... il ne vit pas pour les tentations. Il aime faire des péchés. Non. Son cœur est brisé. Yani, ça ne lui dit rien des péchés. Au contraire, il déteste les péchés. Subhanallah l'adhim. Non. Attendez, j'ajoute une chose pour terminer, inshallah ta'ala. Regardez ce qu'a dit ici le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Regardez ce hadith. Ce hadith qui me plaît beaucoup dans Bukhari ou Muslim. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكي لي طافيشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل دونك عبد الله بن عمرو بن العاص ان صحابي فيس دو صحابي نعم انت تابعي فيس دو صحابي كاتيل دي الى دي Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, Ya Abdullah, oh Abdullah, il m'a interpellé, oh Abdullah, la tekun mitla fulan, ou bi mitli fulan, ne sois pas comme X. Il n'a pas cité qui c'est. Quand même, il va pas le. Yani, il va le cacher, mais il ne va pas dire qui c'est. Mais il lui a dit, ne sois pas comme X. Non. Qu'est-ce que faisait X? Il a dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, X. كان يقوم الليل il priait la nuit, ensuite il a délaissé la prière de la nuit, rapporté par Bukhari et Muslim. Pour que vous sachiez que quoi? Que quelqu'un, quand il commence une chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, le mieux pour lui, c'est qu'il ne la délaisse pas. C'est pour cela que, peut-être ceux qui ont entendu avec nous, par exemple ce qu'on a dit aujourd'hui dans le cours, peut-être que, yani, ils vont sentir, masha'Allah, la chaleur dans le cœur. Il va dire, allez, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas arrêter la prière de la nuit. Je lui dis, masha'Allah. Mais, exagérateur, attention que tu dises, il faut que je fasse la prière de nuit, chaque nuit. Ensuite, tu vas la laisser carrément et ne plus jamais la faire. C'est pour cela que, attention que tu risques de rentrer dans le hadith que je viens de citer maintenant. Que le prophète a dit, attention, ne sois pas comme X. Il prie la nuit, il l'a délaissé. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de bien. Celui qui prie la nuit, il délaisse. Donc toi, il faut bien réfléchir. Si tu veux commencer la prière de nuit, disons, commence une fois par semaine. Deux fois par semaine, comme ça. Pour que tu puisses laisser cette chose avec toi à vie. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est dans le hadith de Bukhari, quand il faisait une chose, il la faisait à vie. كان إذا عمل شيئا أثبت عمل عملا أثبت donc c'est pas comme les gens qui comme j'ai dit يعني, ils commencent ça tu lui dis par exemple salat al-duha c'est mashallah ah bon salat al-duha allez 12 rak'at chaque jour 12 rak'at il va faire ça pendant 15 jours tu vas dire oh là je suis feignant hein. Non, c'est un peu difficile salat al-duha et comme ça non salat al-duha ma'alish fais-la une fois par semaine ma'alish mais fais-la toute ta vie jusqu'à ce que tu meurs. Naam. Tayyib. Regardez un autre hadith avec lequel on va terminer, inshallah ta'ala. J'espère qu'il va s'afficher. Allahu ta'ala alam. Le hadith qu'il y a là en noir, est-ce qu'il s'est affiché? Alhamdoulilah. Regardez ce hadith. Bon, il s'est affiché un peu, yani mélangé. Mais je vais vous le lire, inshallah ta'ala. An Salim, an Abi. Salim, c'est le fils... L'un des fils de Abdullah ibn Omar, qui lui-même c'est le fils de Omar ibn Khattab. Donc Salim c'est le petit-fils de Omar ibn Khattab. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, d'après son père, donc c'est Abdullah ibn Omar. Qu'a dit Abdullah ibn Omar? Il a dit, كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un faisait un songe véridique, il venait le raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit donc, j'ai souhaité que Allah Ta'ala me fasse voir quelque chose dans le songe pour venir la raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa kuntu ghulaman shaban, et j'étais jeune. Peut-être il avait 15 ans, 16 ans, 18. Il a dit, j'étais jeune. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et je dormais dans la mosquée au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant jeune, n'étant pas marié, etc. Donc, il a dit, je dormais dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fara'aytu fi an-nawmi. Alors, une fois, j'ai vu dans le songe, dans la mosquée, quand il dormait, il a dit, j'ai vu ka'anna malakaini akhadhanani. C'est comme si j'ai vu deux anges qui m'ont pris comme ça par la main. واحد par exemple, il m'a pris par la droite, l'autre par la gauche. وَذَهَبَ بِي إِلَى النَّارِ, et m'ont emmené en enfer. M'ont emmené vers, disons, vers l'enfer. فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَةٌ كَطَيِّ الْبِيرِ, et je l'ai vu comme ça plier, l'enfer. Je l'ai vu plier comme, il a dit, comme un puits. Comme un puits. وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ, et j'ai même vu qu'elle avait deux cornes. Que Jahannam, j'ai vu qu'elle avait deux cornes. وَإِذَا فِيهَا أُنَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ, il a dit, j'ai même vu des gens à l'intérieur de l'enfer que je connaissais. Alors j'ai dit, A'udhu billah minan nar. J'ai dit dans le songe, Ya Allah, préservez-moi de l'enfer. Préservez-moi de l'enfer. Tayyib. Il a dit, bon, là, il y a un petit mélange, il a dit, Falaqiyana malakun akhar. Il a dit, alors, un autre ange nous a rencontrés. Un autre ange. Un troisième ange nous a rencontrés. فَقَالَ لِي لَمْ تَرَعْ, et l'ange m'a dit, tu n'auras plus peur. Tu n'auras pas peur. N'aie pas peur. L'ange m'a dit, n'aie pas peur. Il a dit, alors, فَقَصَصْتُ عَلَى حَفْصَ, alors j'ai compté, hein, j'ai raconté mon rêve à ma soeur Hafsa. Sa soeur, c'est Hafsa, l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui elle-même, قَصَّتْهَا, à qui? À la Rasoulah, qui elle-même l'a conté au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand Hafsa lui a dit, regarde Abdullah ce qu'il a vu dans le songe. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ni'ma rajul Abdullah. Abdullah, c'est un homme, masha'Allah. Comme ça. Ni'ma rajul Abdullah, c'est vraiment un homme, masha'Allah. Mais quoi? Law kana yusalli min al-layl. Si, mais si, hein, Abdullah est quelqu'un de Mashallah, si, voilà, il y a un si, s'il priait la nuit, comme ça il lui a dit, Abdullah est quelqu'un de Mashallah, s'il priait la nuit. Abdullah a dit, فَكَانَ بَعْدُ لَا يَنَمْ مِنْ اللَّيْلِ لَقَالِ, son fils a dit de son père, mon père, depuis ce jour-là, lorsqu'il a entendu le prophète dire comme ça, que Abdullah est Mashallah, s'il priait la nuit, il a dit, jamais il n'a arrêté la prière de la nuit. Jamais il n'a arrêté la prière de la nuit. Qu'est-ce qu'on peut prendre rapidement de ce hadith comme ça? On peut prendre que donc, yani les rêves ou là, les songes véridiques, ce n'est pas facile comme ça. On les interprète comme de nos jours à la télé. Il s'assoit comme ça, il commence à t'interpréter tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, dis-lui ce que tu veux. J'étais en voiture, donc c'est voilà l'interprétation. Tu es sur un âne, voilà. Tu es sur un cheval, voilà. Tu montes un arbre, voilà. Un moyen, tout ce que tu dis. Quelle voiture? Elle est rouge, voilà l'interprétation. Si elle est bleue, voilà. Si elle est blanche, voilà. Si elle a quatre roues, voilà. Si elle a trois roues, voilà. Si elle a deux roues, voilà l'interprétation. Et comme ça, mensonge sur mensonge, a'oudou billah. Mensonge sur mensonge, a'oudou billah. Peut-être se basant sur un livre lui-même menti. De Ibn Sirin. Zama, Ibn Sirin l'a dit, l'a écrit, Ibn Sirin se désavoue de ce livre plein de mensonges. Un mohème. Regardez, quelqu'un qui voit deux anges l'emmener vers l'enfer, presque le jeter en enfer. Si c'était nous, qu'est-ce qu'on aurait dit à la personne? On lui aurait dit, c'est très grave. Tu dois faire de très grands péchés, toi. Au point que les anges t'ont presque jeté en enfer. Et heureusement qu'il y a un troisième ange qui est venu, il t'a dit, t'as pas, là, tu n'auras plus peur. Donc on va dire à la personne, donc arrête, arrête les grands péchés que tu fais. Arrête. Il y a ni moins 5 on t'a rejeté en enfer. Et alhamdoulilah, il y a un ange qui t'a dit, il faut pas y aller avoir peur. Alors que le prophète n'a pas dit ça du tout. Au contraire, il a dit, il y a ni dans ce rêve que cette personne qui arrive et ce rêve, masha'Allah. Mais il lui manquait quoi? Il lui manque quoi? Il lui manque la prière de la nuit. Donc on comprend aussi que la prière de la nuit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sauve de l'enfer. Naam, bi'idhnillahi ta'ala. Elle sauve de l'enfer. Bi'idhnillahi ta'ala. El-Muhim. Attendez, est-ce qu'il reste quelque chose? Les raisons. Naam. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant Azza wa Jal, hein, qu'il nous aide au moins pour qu'on fasse cette chose au moins une fois par mois. Au moins une fois par mois. Surtout, 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 la responsabilité, comme vous savez, revient à plus forte raison à celui qui fait le cours. Il fait le cours et apprend aux gens. Il leur dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Si lui, il ne fait pas, comme vous savez, que c'est plus grave. C'est plus grave que pour celui qui entend. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, qu'il nous aide à faire, yani, la prière ne serait-ce yani, par mois ou là de temps en temps, yani, pour goûter ce grand plaisir qu'il y a dans cette sublime salat. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, dans 10 minutes ou un quart d'heure pour répondre à vos questions. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanallah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ensuite, je profite pour dire, vous savez, comment dirais-je, il va afficher comme ça un lien sur lequel vous allez cliquer pour vous inscrire, comme d'habitude. Mais il y a une chose que je savais pas, c'est presque toujours ou là tout le temps les mêmes personnes auxquelles on lit leurs questions. Moi, je connais pas quelles sont ces personnes, mais comme j'ai compris une chose, ceux qui sont nouveaux, par exemple, dans le fait d'écrire leurs questions, nouveaux ou nouvelles, qu'est-ce qu'ils savent pas? Qu'est-ce qu'ils croient? Est-ce que Mousseline va finir? Donc la personne va rentrer dans le lien, voilà, cher, et ceci, cela. Donc, et ensuite, elle va dire, je crois qu'il y a envoyé, ou la scène, ou quelque chose comme ça, elle va envoyer sa question. Et donc, elle ne sait pas que yani, il y a des frères et des sœurs qui ont la question déjà, yani, ils la préparent, copier-coller. C'est-à-dire, il va seulement faire un copier-coller prêt sur Word ou je ne sais pas quoi. Et donc, comme vous savez, la règle sans réponse. On voit la question, la première, le premier, elle va se classer en premier, deuxième, troisième, quatrième. Donc toi, le temps que tu écrives ta question, classe, elle va venir la 70e, la centième. Et ils ont fait quoi? Pourquoi elle est venue parmi... Donc, je crois, Mousseline Midré, je crois qu'ils ont l'habitude de faire. Et maintenant, ils vont s'énerver, ils vont dire pourquoi il leur a montré, pourquoi il leur a montré la ruse. On aurait aimé aller rester toujours, c'est nous seulement qui pourrions. Pour devenir vraiment croyant, on doit aimer autrui ce qu'on aime pour soi. Comme il y a des gens qui viennent et qui restent des mois et des mois, ne peuvent pas. Pour... Je vous ai dit, il y a une personne qui est venue spécialement de Bordeaux. De Bordeaux. Se poser des questions. Allah l'adhim. Donc, il me dit, moi je reste des mois dans le patron. Poser une question. Donc, comment nous poser des questions? J'aimerais aussi que mon frère puisse poser sa question et ma soeur puisse poser sa question. Donc, à tout à l'heure, inshallah ta'ala, salam alaykoum.
Donc, première question, cher, d'un frère. Concernant, cher, le fait de demander si les initiateurs de la question sont présents, on a eu plusieurs plaintes la dernière fois concernant le problème d'anonymat. Donc, Inch'Allah, pour éviter de perdre du temps, on ne va pas de poser la question. et vous direz ce que vous en pensez. Donc la première question d'un frère, Salam alaikum cher, ainsi qu'aux admins. Nous savons qu'il faut que la sutra soit d'une certaine hauteur, mais je suis tombé sur ce hadith. Est-il sahih? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, protégez-vous avec une sutra dans la prière, ne serait-ce qu'avec une flèche. Donc peut-on utiliser comme sutra quelque chose de petit, comme une flèche ou autre? Barakallahu fikoum cher. Fadal cher.
نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب avant cela je veux dire une chose. Qu'est-ce que tu as dit dans l'introduction? Avant de poser la question, tu as fait une petite introduction. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Est-ce que tu peux répéter, inchallah, tafadhal.
Non, cher, rappelez-vous, samedi, on avait demandé donc aux personnes qui posaient des questions sur le site de nous faire savoir en PV s'ils étaient présents pour éviter de répondre à la question sans qu'ils ne soient là et qu'ils réitèrent donc au cours suivant de reposer la même question. Donc le samedi, on demandait à chaque fois si telle personne était présente. Et nous avons donc reçu des plaintes en PV, nous disant qu'il y avait un souci d'anonymat, que certaines personnes voulaient poser des questions sans qu'on sache qui est-ce, etc. Et donc pour éviter, Allahu alam, ils ne veulent pas en fait nous faire savoir s'ils sont présents ou pas. Donc pour éviter, je ne le redemande pas ce soir. Donc dites ce que vous en pensez, sachant que la solution, ça serait tout simplement d'utiliser un pseudo sur Paltalk. Différent du pseudo habituel. Comme ça, on ne saurait pas que c'est eux. Allahu alam. Tfadashir.
D'accord, maintenant j'ai bien compris, inshallah ta'ala. Tu m'entends? Alhamdoulillah. Mais je dis, si jamais une personne pose une question, hein, je dis que maintenant c'est la règle. Quand je réponds, inshallah ta'ala, si elle est absente, si la personne est absente quand je réponds, je ne répète pas après. Ça veut dire si une personne pose la question, ensuite elle est absente. Lors de la réponse, je lui dis quoi? Je lui dis, va l'écouter, inshallah ta'ala, dans le site, dans 2 ou 3 jours. Vous savez que la réponse va être mise dans le site, inshallah ta'ala. Taïb, reste maintenant comme la première question. Le prophète Aslam a dit, protégez-vous dans la prière, ne serait-ce qu'avec une flèche, hadith rapporté par Al-Hakim. Est-ce qu'on peut utiliser comme sutra quelque chose de petit, comme une flèche ou pas? Barakallahu fik. Je dis, Alhamdulillah, salatu salam ala Rasulullah. Naam, naam. Il est de la sunna que, yani, on peut par exemple mettre une flèche comme sutra. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, dans sa sunna authentique, que quand il était par exemple dans un désert où, naam, qu'il n'y a pas de sutra, il plantait sa flèche. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que la sutra, l'essentiel, ce n'est pas sa largeur, mais plutôt sa longueur. C'est-à-dire que ce n'est pas une condition dans la sutra qu'elle soit large, comme une armoire ou comme une porte ou une chaise. Non. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit assez haute, comme dans le hadith. C'est-à-dire un demi-mètre. 45 et quelques, au moins. Mais si on n'a pas le demi-mètre, ça ne fait rien, 40, 30, 35, comme dit Cheikh Al-Albani rahmoullah. L'essentiel, c'est de ne pas prier sans sutra, bi-idhnillahi ta'ala. Ensuite, regardez ce hadith dans Sunan ibn Majah. Sunan ibn Majah, numéro 941. Cheikh Al-Albani a dit, sahih, an Nafi' an ibn Umar qal, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, tukhraju lahu hirba fi safar, fa yansibuha fa yusalli ilayha. Le prophète, il a dit, dans le voyage, on lui sortait une flèche. Il la plantait et la prenait comme sutra. Il la prenait comme sutra. Voilà, inshallah ta'ala, pour la réponse. Tayyib. Tfadal, inshallah ta'ala, pour la deuxième question.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum. Qu'Allah vous préserve, cher. Je voulais savoir si l'on se lève environ 30 minutes avant l'heure du Fajr, est-ce que c'est compté comme prière de nuit? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Naam, je dis, tant que tu n'as pas encore entendu l'adhan du Fajr, je ne parle pas du premier adhan. Je ne sais pas chez vous si vous avez deux adhans comme nous ou pas. Al-Muhim, tant que tu n'as pas entendu le adhan du Fajr, le adhan du Fajr, c'est chez nous le adhan de la prière où il faut aller à la mosquée pour prier en groupe. Tant que tu n'as pas entendu ce adhan qui t'interdit de manger si tu jeûnes, c'est ça le adhan dont je parle. Tant que tu n'as pas entendu ce adhan, tout ce que tu fais avant cela et à partir de Salat al-Isha, ça s'appelle prière de la nuit. Donc, celui qui peut se lever 30 minutes, même 30 minutes avant l'heure du Fajr, on dit de lui que il a prié la nuit, bi-idhnillahi ta'ala. Et là, je voudrais juste attirer votre attention sur une chose. Si quelqu'un veut prier la nuit, une des conditions pour pouvoir prier, c'est quoi? C'est de dormir tôt. C'est pas possible que quelqu'un dorme à 1 h du matin et 2 h du matin, il va dire je vais faire la prière de la nuit. C'est pas possible, tu peux pas. Allah t'a créé comme ça, tu peux pas. Tu es faible. C'est pour ça que le prophète sallam avait interdisé que de parler la nuit après l'Isha. Sauf si c'est avec les invités ou bien dans le ilm ou bien sinon, yani, les salafs, comme vous savez, dormaient tôt. Bi-idhnillahi ta'ala. Tfadl.
Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. J'aimerais savoir si, par exemple, on prie Qiyam même 15 minutes ou 10 minutes avant la salat al-Fajr et que c'est régulièrement, on rentre toujours dans la. Est-ce que l'on rentre toujours dans la prière de la nuit ou pas? Hayakum Allah, cher. Fada, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, je viens juste de répondre à cette question. Tant que il n'a pas appelé l'adhan de Fajr, on est toujours dans la prière de la nuit. C'est mieux que qui? Que celui qui ne s'est pas réveillé du tout jusqu'à yani, l'adhan et il a prié. Donc moi je suis 10 minutes, je suis mieux que lui. Celui qui est 15 minutes est mieux que moi. Une demi-heure avant le Fajr est mieux que moi. 1 h, il est mieux que moi. 2 h est mieux que moi, et ainsi de suite. C'est relatif. C'est relatif. Vous avez compris. C'est comme ça. Bi-idhnillahi ta'ala. Tfadl.
Question suivante d'une sœur. Salam alaikum, cher. Concernant Qiyam al-Layl, pouvez-vous nous conseiller sur la manière de la pratiquer dans le but d'être assidu? Combien de rakats, temps en prière, à quel moment de la nuit, etc. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve ainsi que tous. Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullah. La meilleure prière de la nuit, c'est celle où on s'est endormi, on s'est réveillé. C'est pour cela que si la personne est sûre, bi'idhnillahi ta'ala, qu'elle va prier la nuit, donc le conseil, c'est qu'elle fasse pas salat al-witr. C'est qu'elle fasse la ratiba de salat al-isha. Après isha, elle fait 2 rakat, qui s'appelle ratiba. Mais elle ne prie pas salat al-witr, et elle s'endort. Ensuite, elle se lève, par exemple, 1 h, par exemple, avant, disons, Salat al-Fajr. Parce que c'est difficile qu'elle se lève au milieu de la nuit, prie, ensuite se réendorme, ensuite se relève pour le Fajr. Je pense que c'est difficile. Donc, qu'elle se lève, donc, disons, avant le Fajr, d'une heure, une demi-heure, trois quarts d'heure, et comme ça, même 20 minutes, elle avant le Fajr. La descente d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le dernier tiers. Et ensuite, qu'elle prie, on ne peut pas lui dire combien exactement elle doit prier. Cela dépend d'elle et de la chaleur qu'elle a dans le cœur. Et femme, cela dépend. Mais je dis, si elle prie déjà seulement 2 ou 4, c'est masha'Allah. L'essentiel, ne pas dépasser 13. Mais si elle prie 2 ou 4, ou seulement deux, et elle fait de ça une assiduité, au moins yani, une fois par semaine. Non. C'est-à-dire, c'est pas elle le fait une fois, ensuite elle le fait plus pendant 3-4 mois. Non. Au moins une fois par semaine. Ou alors disons, mais allez, je suis une fois tous les 15 jours. Ensuite, elle commence à ajouter. Elle commence à ajouter. Jusqu'à ce que ça devienne, inshallah ta'ala, si elle peut, je dis, si elle peut, ça devienne par exemple un jour oui, un jour non. Une nuit oui, une nuit non. Et si elle peut, elle devient comme les salafs. Si elle peut toutes les nuits, pourquoi pas? Mais je lui conseille de ne pas, yani, fortifier la dose les premiers temps. Ensuite, elle jette tout. Mais d'aller doucement. Mais allez, si elle peut le faire une fois par semaine, elle fait deux rak'at ou bien quatre rak'at, mashallah. Et ensuite, elle fait le witr et elle s'assoit et elle reste en train de faire le astaghfirullah et les doigts jusqu'à ce qu'elle entende la prière du fajr, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfadlan.
Question d'un frère. Assalamu alaikum. J'aimerais savoir si le fait de se lever pour la prière de la nuit signifie à la fois prier pendant plusieurs heures ou alors faire deux rak'at est considéré comme une prière de nuit. Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
Naam, je viens de répondre. Alaykoum salam, wa barakatuh. Deux rak'at, si tu fais deux rak'at, tu as fait la prière de la nuit. Naam. Et prière de la nuit, c'est surtout, c'est pas surtout une prière de la nuit, mais c'est aussi, comme on dit, disons, rêver de la nuit. Moi-même, je me suis réveillé la nuit, même si j'ai pas prié. Des fois, la femme a des empêchements. Elle prie pas une semaine. Donc, elle peut se lever juste pour faire des doigts. Faire des doigts. Ou bien lire le Coran avec des gants, par exemple. Donc, la prière, la nuit, ce qu'on veut dire ici par la nuit, la meilleure des choses, c'est la salat. Mais il n'y a pas seulement salat. Il y a aussi doigts, istighfar. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, wa bil ashar istaghfirun. Un verset dans ce sens. Naam. Donc, il a dit que c'est-à-dire à la fin de la nuit, il faisait l'istighfar. Le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter la foi, le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous ouvrir notre poitrine, et comme ça. Naam. De faire les doigts à la nuit. Al-Muhim, deux rak'at, c'est déjà masha'Allah. Deux rak'at, c'est déjà masha'Allah. Ce n'est pas une condition de prier, yani, des heures et des heures. Tfadlal.
Question suivante, également d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Vous avez dit dans le dars que c'était mieux de faire la prière dans l'obscurité. Donc, est-ce que cela veut-il dire qu'on puisse prier la nuit dans la nuit, dans le noir? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Alaykoum salam, barakatou. Naam, bien sûr qu'on peut prier dans la nuit, dans l'obscurité. Et prier dans l'obscurité, ça donne plus de khushu'. Wallahu alam. Il faut l'essayer et voir. Pourquoi? Car quand tu pries dans l'obscurité, tu vas vite t'imaginer que tu es dans ta tombe. Et si tu pries dans la lumière, donc tu as en face de toi les livres, tu as en face de toi la chaise, tu as en face de toi le buffet, les autres, tu vas peut-être les contempler. Mais quand c'est dans l'obscurité, bi'idhnillahi ta'ala, la première des choses, tu vas penser à la tombe. Tu vas dire, demain, je serai dans la tombe. Ou bien, c'est comme si j'étais dans la tombe. Et comme ça va te donner plus de khushu', bi'idhnillahi ta'ala. Mais je dis, je redis, ce n'est pas une condition. Ça ne veut pas dire que si je prie dans la lumière, que ma salat n'est pas acceptée. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, c'était juste pour ressentir, yani, un peu plus de khushu'. Wallahu a'lam. Tfadhal.
Question d'un frère. Donc vous avez en partie répondu, cher. Salam alaikum. Quels sont les nombres de prières de Salat al-Layl? Et chacun peut-il prier ce dont il est capable et les invocations à réciter et les sunnahs à faire? Tfadda, cher.
Alaykoum salam, rahmatullah. Les nombres de prières de Salat al-Layl, cela dépend de la personne. Le minimum, elle doit faire deux. Et ensuite, bien sûr, le witr, puisqu'elle ne l'a pas fait. Donc le minimum, c'est trois. Et le maximum, c'est 13. On ne doit pas dépasser 13 dans la prière de la nuit. Mais le minimum, on doit faire trois. Comme vous savez. Deux et le witr. Et deux et le witr, ou bien on les joint. Ou bien on fait deux seuls et le huître seul. Et si on les joint, on ne doit pas s'asseoir pour faire le teshahhud. Pour ne pas faire ressembler cette salat, qui est de trois unités, pour ne pas la faire ressembler à la salat du Maghrib, à cause d'un hadith qui dit comme ça et qui est authentique. Ça, c'est pour le nombre de salat. Et je pense, Allah Ta'ala alam, que faire par exemple deux prières, ou deux unités ou quatre, avec un certain khushu', c'est mieux que yani, de faire 10 et de faire vite. Par exemple, il reste seulement 20 minutes par exemple pour le fajr, je dis allez, je vais faire 12 et je vais les faire vite comme ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est pas de la salat. Je préfère faire deux rak'at et assez longues, mashallah, où mes os reviennent dans leur position, dans les membres à chaque fois. Quand je m'assois, quand je prosterne, quand je m'incline, et je fais des du'as longuement, des du'as, deux rak'at mieux que 10 à la va-vite. Quelles sont les invocations à réciter, les sunnahs à faire? Il n'y a rien de spécial, ni dans la sunna, ni les invocations. Tu fais les invocations que tu peux. Surtout, l'istighfar. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ou bien demander à Allah de pardonner. Allahumma ighfirli rabbi ighfirli. Et n'importe quel doua. Ou alors lire le Coran. Al-muhim quoi? Al-muhim, tu n'es pas dans ton lit. Les autres sont en train de dormir et de ronfler. Et toi, tu es là, masha'Allah. Naam, Allah Azza wa Jal vient de descendre, tu es là. Yani, à marquer ta présence, à marquer ta présence pour Allah subhanahu wa ta'ala, je suis présent et j'ai laissé quelque chose de très important qui est le sommeil, qui est la couverture, qui est le lit. Naam. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Tfadl.
Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum, cher. J'ai une question sur la prière. Un frère priait la salat du dhuhr. Et une personne qui ne savait pas que le frère priait lui a passé le bonjour. Le frère qui priait, par réflexe, a répondu bonjour en tournant sa tête et a continué sa salate. Quel est le jugement? Doit-il recommencer la salate? Barakallahu fikoum. Tfadal cher.
Quand on est dans la prière, si la prière est obligatoire, comme Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, il est interdit de parler avec les gens. On ne parle qu'avec Allah subhanahu wa ta'ala en lisant le Coran et en faisant le tasbih, etc. et les doigts. Si quelqu'un nous passe le salam, car même dans la salat, quelqu'un s'il rentre dans une pièce ou là, il voit quelqu'un prier, il lui passe le salam. Il ne dit pas qu'il est en train de prier. Il lui dit salam alaykoum. La personne qui est dans la salat, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle lève sa main. Elle lève sa main pour lui montrer que yani, je t'ai entendu, donc voilà la réponse. Ma réponse est en levant la main, car c'est interdit de parler. Et ça, c'est la sunna authentique du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez compris? Donc, même quand je rentre dans ma chambre, et je trouve mon frère ou là, ma femme ou là, en train de prier, je lui dis salam alaykoum. Et elle lève la main pour me dire que, yani, elle m'a entendu, wa alaykoum salam wa rahmatullah, sans parler. Al-muhim. Maintenant, si je parle, si quelqu'un me dit salam alaikum, par exemple, je lui dis alaikum salam rahmatullah. On va voir. Si je l'ai fait sciemment, je suis conscient et je l'ai fait sciemment. Non, je n'ai pas oublié, mais je lui ai dit, j'ai réfléchi, je lui ai dit alaikum salam rahmatullah wa barakatuh. Ma salat est nulle. Donc, j'arrête la salat et je reprends à zéro. Et je n'ai pas le droit d'arrêter la salat de la rompre. Ya ayyuha alladhina amanu la tubtilu amalakum. Donc, je n'ai pas le droit de rompre comme ça ma salade. Mais si, je dis, écoutez bien, mais si, j'ai répondu comme ça sans faire attention, sans vouloir, je lui ai dit alaykoum salam. Donc, ce cas, qu'est-ce que je fais? Je continue ma salade. Pourquoi? Car je ne l'ai pas fait exprès. Non, je ne l'ai pas fait exprès, c'est sorti comme ça tout seul. Je suis excusé. C'est comme un peu le rire. Non. Je me suis rappelé une chose et sans le vouloir, j'ai ri comme ça un peu. J'ai arrêté. Je ne l'ai pas fait exprès. Je continue ma salate. Je continue ma salate bi'idhnillahi ta'ala. Ça, c'est quand la prière est obligatoire. Quand la prière n'est pas obligatoire, il y a un hadith authentique. Cheikh Al-Albani l'a cité, rahimahullah, que Abdullah ibn Abbas était en train de faire la salate. Et que quelqu'un est rentré et yani, lui a tendu la main pour lui serrer la main, pour lui dire salam alaikum. Et Abdullah ibn Abbas était dans la salate et il lui a tendu lui aussi sa main. Et il lui a serré aussi sa main. Pourquoi? Car dans la salate nafila, beaucoup de choses sont permises. Au point où Cheikh Ibn Uthaymeen dit que des fois tu peux même prendre le stylo pour noter une chose et rendre le stylo à sa place. Et aller ouvrir la porte et décrocher le téléphone pour qu'il sache que je suis en train de faire la prière. Et comme ça. Et montrer de ma main la chose, qu'elle est là-bas. Si on me demande la question où sont les clés, je montre avec ma main que c'est qu'ils sont là, à droite, à gauche. Tout cela, c'est permis dans la salat nafila avec des dalils authentiques, inshallah ta'ala. Et tfadl, inshallah ta'ala, pour une autre.
Question suivante d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah vous préserve et vous récompense, vous et vos admins. Amin. Voilà, je voudrais savoir s'il faut faire les Isha et ensuite faire Shfa al-Witr, dormir et puis dans la nuit se lever et faire Qiyam al-Layl, ou il faut faire les Isha, ensuite Shfa et faire Qiyam al-Layl et après faire le Witr. Barakallahu fikoum. Donc le cher a déjà répondu, mais je le laisse y répondre, Inch'Allah. Tfadal, cher.
En fait, c'est une question simple mais très importante. Chauffe. Quand quelqu'un fait Salat l'Aïcha, quand quelqu'un a terminé Salat l'Aïcha, il est de la sunna de faire quoi? De faire deux rak'at après Salat l'Aïcha. Et ces deux rak'at-là, de préférence, on les fait, c'est-à-dire presque collés. On ne laisse pas beaucoup de temps entre l'Aïcha et les deux rak'at. C'est-à-dire que si je prie à la mosquée, je prie Salat l'Aïcha. Ensuite, je vais à la maison. Car ce n'est pas de la sunna de prier une nafila à la mosquée. Je vais à la maison. Dès que j'arrive, je fais quoi? Je fais les deux rak'at de Salat l'Aïcha que les gens appellent chef. Que les gens appellent chef. Mais, qu'en fait, il n'y a pas une salat qui s'appelle chef. Il n'y a pas une salat. Si vous allez voir Salat al-Duha, Salat al-Istikhara, Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, Salat l'Il, il n'y a pas salat qui s'appelle Salat chef. Il y a huit, d'accord, huit, mais il n'y a pas une salade comme ça qui s'appelle chef. Et le verset qui dit chef et huit ne parle pas de ça, bien sûr. Un moyen, ces deux rak'at que les gens ont pris l'habitude de les appeler chef et qui se prient après Salat l'Aïcha. Ces deux rak'at font partie, comme je l'ai dit plusieurs fois, d'un ensemble de 12 rak'at. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque prie 12 rak'at, et dans la version de musulman, il a dit chaque jour, il a bien dit chaque jour, quiconque prie chaque jour 12 rak'at, Allahu Ta'ala lui construira une maison dans le paradis. Je répète, toute personne qui prie chaque jour, ça veut dire sauf excuse, sauf voyage, sauf la femme qui est malade, et comme ça. Sinon, toute personne qui prie chaque jour 12 rak'at, Allah Ta'ala va lui construire une maison dans le paradis demain. Donc ça veut dire, comme disent les savants d'Al-Sunna, le paradis maintenant, il est prêt, il est déjà prêt, il a été créé déjà. C'est pas comme les Mu'tazila qui disent que quand on va mourir, Allah va créer le paradis et l'enfer. Nous, non. On dit le paradis est déjà prêt. Reste maintenant. À toi, ça revient de construire ce que tu veux à l'intérieur. Naam. Sinon, tu vas trouver seulement ce que Allah Ta'ala va te préparer. Mais toi, dès maintenant, Allah Ta'ala t'a donné l'occasion de le remplir d'autres choses. Par exemple, moi, si j'ai l'habitude de faire chaque jour 12 rak'at, quand je vais mourir, Inch'Allah, si je rentre au paradis, je vais trouver une maison spéciale qui m'attend moi et qui t'attend pas toi. Toi, tu auras bien sûr toutes les choses. Tu auras des chevaux, tu auras les ruisseaux de tout ce que tu veux, mais tu n'auras pas la certaine maison qu'aura celui qui faisait les 12 rak'at. Et quand je dis une maison, bien sûr, ce n'est pas ça dire une maison en briques et carrelage et dalles de sol et juste pour dormir. Une maison en émeraude, en diamant, je ne sais pas quoi, et plein de choses à l'intérieur. Plein de choses où à manger et à faire mille choses. Je reviens, c'est quoi les 12 rak'at? C'est quoi les 12 dans les deux rak'at dont parle la sœur? Donc, les deux premières, ce sont Fajr. Fajr, qu'on fait avant Salat Sobh. Vous savez que tout le temps avant Salat Sobh, on fait Fajr. On lit Qul ya ayyuhal kafirun dans la première et dans la deuxième, on lit Qul huwallahu ahad après le Fatiha. Donc, ça fait deux. Ensuite, 4 avant d'or. 2 et 2. Ce n'est pas 4 à la fois. Ça fait combien? Ça fait 6. Ensuite, 2 après avoir fait salat d'or. Ça fait 8. Ensuite, 2 après avoir fait salat maghrib. Ça fait 10. Ensuite, 2 après avoir fait salat l'Isha. Et voilà les 2 dont la personne parle. Elle dit, est-ce que c'est bien yani de faire chef et de dormir ou là comment qu'on fait? Donc, beaucoup de gens, je dis beaucoup de gens, mais c'est qui, là? Ils me font de la peine. Pourquoi? Ils ne savent pas que ces deux, de ça, après de l'Aïcha, qu'ils appellent chefs, qu'ils font partie d'un ensemble de 12. Et tu les trouves, ils font seulement ces 2 rak'at. Où sont les 10 autres de la journée? Ils ne les font pas. Ils font le fajr, d'accord, le fajr, ils le font. Et ils font les 2 après l'Aïcha. Ils ne font jamais 4 avant l'or, 2 après l'or, 2 après le maghrib. C'est dommage, je ne mourrai. Donc je dis à la personne, quand tu pries l'Aïcha, ensuite, tu fais les 2 pour que ça devienne 12 de la journée. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Ensuite, tu vas dormir, inshallah ta'ala. Si tu as l'intention de prier la nuit et si tu as l'habitude de te réveiller aussi. Car si tu sais que tu vas pas te réveiller, il vaut mieux yani attendre encore 1 heure ou là 1 heure et demie et avant de dormir, faire qiyam al-layl, faire salat al-layl, prier 2, 4 et faire le 8 et aller se coucher. C'est mieux. Non. Mais si tu sais que tu peux te réveiller, yani dormir et te réveiller, dans ce cas, fais les 2 après Aïcha et va dormir. Et quand tu te réveilles vers 3 heures du matin ou 4 heures ou la 2 heures et demie ou là, je ne sais pas, lève-toi, va prier 2, 4, 6 jusqu'à 12 comme tu veux et fais le 8 et dors et comme tu veux. Et si tu veux dormir, dors. Si tu veux, attends salat al-fajr bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Question suivante d'un frère. Salam. D'après Abdullah ibn Omar, celui qui prie 4 rakat après les Isha, cela lui sera compté comme s'il les avait accomplis la nuit de Al-Qadr. Comment faire si l'on veut faire les 2 rakat de Rawatib après les Isha et les 4 d'après ce hadith et faire les 11 rakat de la nuit? Comment faire pour ne pas dépasser les 11 rakat de la nuit? Comment faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher.
La sunna, alaykoum salam, la sunna, c'est que la personne qui prie salat l'Isha doit faire après salat l'Isha 2 rak'at. 2 spécialement qui vont se joindre aux 10 autres, aux 10 autres de la journée pour avoir la maison du paradis. Donc ça, c'est ta part. Ensuite, si quelqu'un veut faire 4 avec l'intention que c'est à cause du hadith de. C'est comme s'il les avait accomplis Laylat al-Qadr. C'est un hadith sahih, d'après Cheikh al-Albani. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire aussi après ces 2, par exemple. Après ces 2, c'est pas obligé que ça soit collé aux 2. Hein. Il peut, par exemple, aller manger et revenir. Ensuite, il fait, par exemple, ces 4. Les 4, l'âme qui vient de citer maintenant, de Abdullah ibn Omar. Mais ce n'est pas une condition de les faire tout le temps. Pourquoi? Car ce n'est pas, ces 4-là ne sont pas. Ne rentre pas dans les rawatib. C'est un peu comme les 4 sur lesquels a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique. Il a dit, attendez, je cherche le hadith en arabe, comment qu'il a dit, Arba'atun qabla al-asr, tuftahu fihim abwabu al-rahma, ou quelque chose dans ce sens. Mais le hadith, Cheikh al-Albani a dit authentique. Le prophète a dit que 4 rak'at avant Asr, celui qui fait 4 rak'at avant Asr, Allah Ta'ala lui fait descendre yani sa rahma ou sa miséricorde, quelque chose comme ça, dans un hadith authentique. Celui-là aussi, ça ne veut pas dire que c'est ratiba, ça ne veut pas dire que chaque fois avant Asr, je vais prier 4. Mais c'est bien de temps en temps de faire aussi 4 avant l'Asr pour que la rahma d'Allah Subhanahu wa Ta'ala descendre et t'englobe. Donc, c'est ce que je dis à la personne ici, si elle veut faire ses 4 de la prière de l'Qadr ici, yani, qu'elle les fasse Inch'Allah Ta'ala de temps en temps. Ensuite, c'est normal. Ensuite, elle fait les 11 ou bien les 13 de la prière de la nuit, bi'idhnillahi Ta'ala. Et, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a pas de contradiction. Tfadlal.
Question suivante Alors, salam alaykoum, cher. Barakallahu fikoum pour tous vos cours ainsi que la patience des admins. Une sœur demande. Elle est enceinte et va bientôt accoucher. Et l'inclinaison pendant la prière est de plus en plus difficile à faire. Et donc elle ne pose pas son front par terre. Comment doit-elle faire? Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit dans une fatwa que la femme en état de menstrue, ou louchi, pouvait toucher et lire le Coran. Mais d'autres savants ont dit qu'il fallait attendre 40 jours. Quel est le plus juste des avis? Cette sœur a peur, après l'accouchement, de ne plus pouvoir prier et surtout lire le Coran et ainsi voir sa foi diminuer. Barakallahu fikoum, de nous conseiller. Tfadal, cher.
طيب وعليكم السلام. Monsieur demande, va bientôt accoucher, et l'inclinaison pendant la prière est de plus en plus difficile à faire. Donc elle ne pose pas son front par terre. Comment doit-elle faire? Et Cheikh Albani, la femme en état de menstruation pouvait dire le Coran et ça. Bon, je dis. Donc la personne a posé deux quoi? Deux questions dans une question. Maalesh. La première, elle dit que quand elle s'incline pendant la prière, elle ne pose pas son front par terre. Je crois qu'elle voulait dire quand elle se prosterne et non pas quand elle s'incline. Un musulman, est-ce que tu es avec moi? Quand on s'incline, on ne touche pas son front par terre. Donc je pense qu'elle voulait dire quand elle se prosternait, elle ne touchait pas son front par terre. Je lui dis, c'est comme ça que tu dois prier, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, pour le malade, il fait ce qu'il peut. Il a dit, même les mains. Donc je peux pas me prosterner avec mes mains. Je peux pas toucher le sol. J'ai mon dos qui me fait mal ou là. Qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen? Il a dit, tu te prosternes et tu rapproches tes mains au maximum, même si ça touche pas le sol. Il a dit la même chose pour le front. Mon front, je vais le descendre, me prosterner jusqu'à ce que je ne puisse plus. Quand je peux plus, Allah Ta'ala ne m'impose pas une charge qui me dépasse. J'arrête et je dis, Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, même si mon front ne touche pas le sol, bi'idhnillahi Ta'ala. Mais j'ai fait mon possible pour descendre, bien sûr, au maximum. Voilà. Tandis que pour les 40 jours, quand elle est dans les logis, etc., Cheikh Al-Albani a dit qu'elle pouvait lire le Coran, l'âme, et d'autres savants ont dit qu'elle ne peut pas lire. Je dis, il y a d'autres savants aussi au milieu, comme Cheikh Ibn Baz rahimahullah, qui dit qu'elle peut lire, si, yani, elle prend pas le Coran de ses mains, mais par exemple avec des gants. Par exemple avec des gants. Et surtout, je dis, de nos jours où, alhamdoulillah, la solution existe, c'est quoi? C'est de lire sur ordinateur. Maintenant, il y a des petits, comment on appelle ça en anglais, laptop. Un petit ordinateur comme ça. Il y a même la tablette maintenant. Il y a la tablette. Vous connaissez? Téléphone portable. Voilà, j'ai oublié. Téléphone portable. Il y a la tablette Android. Il y a la tablette Windows. Non, c'est juste des petits ordinateurs. Tu ouvres et tu lis. Alhamdoulilah, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est le livre. Là, il est sur téléphone, il est sur ordinateur. Je peux lire et toucher. Ce n'est pas haram. Voilà, il y a Inch'Allah Ta'ala la solution. Atfadl pour une autre question, Inch'Allah.
Je remarque que le cher a répondu aux deux questions, mais vous êtes au courant que c'est une seule question par personne. Barakallahu fikoum de penser à tous ceux qui ont posé des questions ce soir et malheureusement, elles ne seront pas toutes lues. Donc, question suivante d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Barakallahu fikoum pour vos cours, qu'Allah vous rétribue en bien. J'aurais voulu savoir comment comprendre le hadith qui nous stipule qu'Allah descend le dernier tiers de la nuit. Est-ce de par sa science qu'Allah descend tous les tiers de la nuit ou y a-t-il une autre explication? J'espère que je fus clair. Merci encore, cher. Tfadal, cher.
J'ai une question sur Whisper qui dit une seconde. Rahimallah, rajulun salla arba'an qabla l'asr. C'est ça le hadith. Rahimallah, rajulun salla arba'an qabla l'asr. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire sa miséricorde sur quelqu'un, un homme ici, ça veut dire aussi une femme, qui a prié 4 rak'at avant l'asr. C'est le hadith que je voulais dire tout à l'heure, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Bon, maintenant le frère dit, alaykoum salam, barakatuh. J'aurais voulu comprendre le hadith qui nous stipule qu'Allah descend le dernier tiers de la nuit. Est-ce de par sa science qu'Allah descend tous les tiers de la nuit? Ou y a-t-il une autre explication? La question est très importante. Importante et grave. Pourquoi? Parce que cette question, bi-idhnillahi ta'ala, cette question, yani plutôt la réponse à cette question, va permettre de classer celui qui va répondre, est-ce qu'il est dans la vraie aqida ou dans la fausse? Vous m'avez entendu. D'après la réponse que vous allez avoir quand vous demandez à quelqu'un, est-ce que c'est Allah Ta'ala qui descend le dernier tiers ou bien sa science, d'après la réponse qu'il va donner, tu vas, Inch'Allah Ta'ala, comprendre et en même temps classer cette personne, yani, est-ce qu'elle est dans le vrai ou dans le faux. Si la personne dit, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui descend, c'est Allah Ta'ala lui-même, Azzawajal, en son essence, qui descend. Si tu dis comme ça veut dire que tu fais partie de Ahl Sunna ou Jama'a. Tu fais partie du groupe sauvé. Tu fais partie de la aqida du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des sahaba et des tabi'in et des grands savants. Et des salaf. Mais si par contre tu dis, c'est la science d'Allah Ta'ala qui descend. Ou bien tu dis, c'est un ange qui descend. Ou bien tu dis, c'est son affaire qui descend, c'est pas lui. Dans ce cas, ça veut dire que tu fais partie d'une secte égarée. Ou bien tu fais partie des Ahbash, ou bien tu fais partie des Mu'tazila, ou bien tu fais partie des Ash'ira, ou bien tu fais partie des Jahmiya. Non, tu es sorti de Al-Sunnah al-Jamaa. Quand on dit tu es sorti, bien sûr, pas facilement comme ça on va faire sortir quelqu'un, mais on va dire que cette personne est ignorante. La chose la minimum, c'est qu'on dise, miskine, cette personne est ignorante et yani, qu'Allah Ta'ala l'aide à ce qu'elle apprenne la aqida. Mais si maintenant la personne va entrer dans le djidel et ramener des délits, que c'est pas Allah, mais plutôt un ange ou bien il commence à donner des délits, etc., dans ce cas, c'est un mubtadi'. Ce n'est plus un ignorant. Auquel on demande Allah subhanahu wa ta'ala de lui montrer le chemin. Mais c'est quelqu'un qui est mubtadi' et donc qui parle avec quoi? Avec dalil et aqida, etc. Donc c'est grave. Donc c'est grave. Al-Muhim. Donc voilà la aqida de Al-Sunnah al-Jama'a. Reste une petite question. Si jamais quelqu'un vous dit quelle est la preuve? Quelle est la preuve que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend et que ce n'est pas par exemple un ange qui descend? Ou bien c'est sa rahma, comme disent les Asha'ira. Ils disent c'est la rahma qui descend, c'est pas lui. On va lui dire, si tu dis que c'est la rahma qui descend et c'est pas Allah, ou bien c'est un ange qui descend et c'est pas Allah, tu as fait deux fautes graves. Deux fautes graves. La première, le hadith a dit que quand c'est le dernier tiers de la nuit, Allah descend. Et toi tu dis que c'est pas Allah qui descend. C'est l'ange ou bien c'est la rahma. Et le hadith n'a pas dit que c'est l'ange ou la rahma qui descend, et toi tu as dit c'est l'ange et la rahma qui descend. Donc ce qu'a dit le hadith, tu l'as pas dit. Et ce que n'a pas dit le hadith, tu l'as dit. Ça c'est la première grande faute. Et la deuxième grande faute, vraiment grande, et impardonnable. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait des péchés, je lui pardonne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande, qui se réfugie auprès de moi, je le réfugie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'istighfar, je lui fais le maghfira. Donc, toi tu dis que, donc tu dis que c'est l'ange qui descend. Donc c'est l'ange qui dit ça. Donc ce n'est pas Allah qui dit ça. C'est l'ange qui dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé, je lui pardonne. Donc, maintenant, il y a deux Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a Allah ta'ala et il y a l'ange aussi qui pardonne et qui ont se réfugié auprès de lui et qui absout nos péchés. Alors que ça, seul Allah subhanahu wa ta'ala le fait. Et toi, tu viens de reconnaître que l'ange, il absout les péchés, et il dit, ô mon serviteur, est-ce que tu veux te faire pardonner? Je te pardonne. Est-ce que tu as des choses à demander? Je t'en donne. Donc, il y a deux dieux. Vous avez compris? Et si tu dis la rahma, c'est la même chose. La rahma qui descend, la miséricorde qui descend, c'est par là. Donc, elle est devenue aussi un dieu. Et elle dit, ô mon serviteur, est-ce que je te pardonne? Est-ce que je te donne ceci? Je te donne cela. Donc, il y a deux dieux. Donc, tu es devenu mouchrik. Et c'est très grave pour toi. Non. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse. Tfadlal.
Question suivante d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakum Allah. Si je me lève 30 minutes avant l'heure du fajr pour faire la prière Qiyam al-Layl, est-ce que c'est considéré comme tel? Donc là, ça a été répondu. Et est-ce mieux de faire en fin de nuit, vu qu'Allah Azzawajal descend jusqu'au dernier tiers de la nuit? Barakallahu fikoum, qu'Allah vous préserve. Tfadal cheikh.
Pour les 30 minutes, j'ai répondu et j'ai dit que tout ce qui est avant le fajr, c'est la prière de la nuit, même si c'est 5 minutes. Et pour la deuxième question, Naam, c'est mieux de prier la nuit dans le dernier tiers, là où Allah subhanahu wa ta'ala descend. C'est mieux de faire la prière le dernier tiers, c'est-à-dire là où Allah subhanahu wa ta'ala descend. Non. Et j'ai dit là où Allah Ta'ala descend, et j'ai pas dit là où son ange descend, ni la rahma. C'est lui qui descend, Azzawajal, et qui dit, ô mon serviteur, est-ce que tu veux te faire pardonner? Est-ce que tu veux que je t'annule tes péchés? Et tu veux yani l'istighfar? Tfadlal.
Question suivante. Assalamu alaikum. Dans l'un de vos cours, vous avez dit qu'il était autorisé, donc c'est la question d'une sœur, vous avez dit qu'il était autorisé de faire entrer les enfants à la mosquée. J'aimerais savoir si cela s'applique aussi aux enfants très jeunes, qui distraient les prieurs, car j'ai lu cette fatwa de l'Ifta. Il y a des enfants de 4 à 5 ans qui viennent à la prière du vendredi avec leur père. Puis, lorsque l'imam prie, ils interrompent la prière d'autrui, parlent et sortent. Est-ce que cela est correct? Réponse. Ce qui est requis aux parents, c'est de ne pas amener à la mosquée leurs petits-enfants qui ont moins jusqu'à ce qu'ils aient leur raison. S'ils atteignent 7 ans et qu'ils ont leur raison, l'islam leur ordonne de prier. S'ils ne l'ont pas atteint ou s'ils ne sont pas encore ou s'ils n'ont pas encore la raison, il est conseillé de ne pas les amener à la mosquée car la prière ne leur est pas obligatoire et parce qu'ils nuisent aux fidèles et les dérangent. Tfadal cher.
Je voudrais poser une question d'abord. Muslim, c'est qui l'a dit? J'ai lu cette fatwa de l'Ifta. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'Ifta? C'est où l'Ifta? Tfadlal. Muslim, est-ce que tu es là?
Ah, monsieur, je suis là. Afwan. Donc, je demande à la personne qui a posé la question sur quoi elle s'est basée pour la fatwa, Inch'Allah. Donc, elle s'adresse à Fawzi du 30 et qu'elle lui réponde, Bidinla.
Je ne sais pas si tu m'as compris, Muslim. Est-ce que l'Ifta, elle veut dire l'Ifta d'Arabie Saoudite, l'Ijna etc. Ou bien c'est quelque chose qui existe en France et qui s'appelle par exemple l'Ifta. Voilà ce que je voulais savoir. Tfadlal.
Moi personnellement, cher, le seul ifta que je connais, c'est de l'Arabie Saoudite. Je pense qu'elle a dû se baser là-dessus. Donc pour être sûr, j'attends la réponse. Mais personnellement, c'est le seul que je connais. Et en France, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc dès que Fawzi, tu as la réponse, Inch'Allah, mets-la sur le salobark, lawfik. Cher, le temps qu'elle réponde, Inch'Allah, je vous fais parvenir une question. Pour éviter de perdre du temps. Question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, cher. Doit-on faire les ablutions concernant les pertes blanches en dehors des règles? Et serait-il possible d'avoir votre numéro de téléphone pour mon mari? Jazakumullah khairan. Donc pour la deuxième question, le cher a dit que pour le numéro de téléphone, malheureusement, il ne répond pas. Et il préfère qu'on lui envoie le mail, Inch'Allah. Voilà la réponse. Tfadash.
Pour les pertes blanches, alaykoum salam wa barakatou. Naam. Est-ce qu'il y a une réponse pour l'iftar? Pour les pertes blanches des femmes, vous savez que yani, c'est presque impossible. C'est presque impossible de trouver une Saoudée, d'accord. C'est presque impossible de trouver, yani, de trouver une femme, disons, qui n'a pas les pertes. Les pertes. Non. Mais cela dépend d'une femme à une autre. Il y en a chez qui c'est beaucoup, chez d'autres c'est peu, etc. Mais presque toutes les femmes du monde ont le problème des pertes. Je dis, les savants ont divergé sur les pertes blanches. Certains ont dit que c'était de la souillure et qu'il donc fallait laver l'endroit intime et aussi les vêtements. Et d'autres ont dit que ce n'était pas de la souillure, que c'était propre et que par conséquent, il fallait pas le, c'est pas la peine de laver les vêtements ni les parties intimes. Et quant aux ablutions, et bien sûr celui qui a dit l'avis que je viens de donner maintenant, que c'était pur, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah. Reste pour les ablutions, certains disent que ça annule les ablutions et d'autres disent que ça n'annule pas les ablutions. Et je pense, Allah Ta'ala, pour plus de prudence, on va prendre avec quoi? L'avis du milieu. C'est quoi l'avis du milieu? Qui facilite, Inch'Allah Ta'ala, à la femme, c'est quoi? C'est de dire que les pertes blanches, nam, ne sont pas de la souillure, mais annulent les ablutions. C'est-à-dire que la femme, quand elle a les pertes, elle n'a pas besoin de laver l'endroit, ni le vêtement, mais elle attend seulement quand c'est le moment de la prière, elle fait les ablutions. Naam. Inch'Allah Ta'ala. Sinon, comme j'ai dit, il y a d'autres qui disent, et ça n'annule pas, et c'est pas pur, et c'est pur. Et il y en a d'autres qui ont dit le contraire, et ça annule, et c'est souillé. Et nous, on a pris du milieu, l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, qui dit quoi? Qui dit que c'est pur. Il a dit, car les pertes blanches ne sortent pas de l'orifice de l'urine, mais ça sort de l'orifice duquel la femme accouche. Il a dit, c'est pour ça que ça rentre pas dans la souillure. Mais de préférence, elle fait des ablutions, inshallah ta'ala, avant de prier. Taïeb, maintenant pour la question des enfants, etc., je dis, je ne veux pas être au-dessus d'une fatwa qui vient des grands savants. Mais je voudrais juste vous dire que, Inch'Allah ta'ala, si quelqu'un prend ses enfants avec lui dans la mosquée, mais les retient pour qu'il fasse pas de. Il laisse les gens prier, etc., que ce n'est pas interdit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, une fois il est descendu du minbar, quand il a vu Hassan al-Hussein rentrer à la mosquée, en train de marcher à quatre pattes, il est descendu du minbar, il les a pris, il a dit, sadaqallahu wa rasuluhu, vos enfants sont une fitna pour vous et vos biens. Et il les a yani, et enlacés comme ça. Il est monté avec sur le minbar. Il a continué la khutbah sur le minbar. Et il n'a pas dit pourquoi ils sont rentrés à la mosquée, ni qu'il ne faut pas les laisser entrer la prochaine fois et que n'amenez pas vos enfants. Et le deuxième hadith qui se trouve dans Sahih al-Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait en mettant la fille de sa fille, en mettant Umama, la fille, c'est Umama, la fille de Zainab. Zainab, la fille du prophète, donc sa petite fille. Le prophète Hassan, plus d'une fois, priait avec sa fille Umama sur les épaules, dans la mosquée. Il guidait les gens avec sa petite fille sur les épaules. Quand il s'inclinait et se prosternait, il la mettait par terre. Quand il se relevait, il la reprenait. Et lisez, récitez en l'ayant sur ses épaules. Allahu Akbar. Troisième dalil, dans le hadith Bukhari, que les femmes, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le ramadan, emmenaient les enfants. Et pour les habituer à aller à la mosquée, et pour qu'ils jeûnent. Et que les enfants avaient tellement mal de faim, que les femmes leur construisaient des ballons en laine. Avec la laine. Vous voyez le petit ballon de laine avec lesquels lequel le chat veut jouer. Comme ça, il leur construisait des ballons de laine et il les laissait jouer dans la mosquée pour qu'ils oublient, pour que yani, se couche le soleil, pour qu'ils mangent. Ça, c'est dans Sahih Bukhari. Et toujours dans les hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait comme ça, il disait, quand il terminait la salat, il disait, je voulais rallonger dans la salat. Je voulais rallonger dans la salat, celle-là que je viens de faire avec vous. Mais quand j'ai entendu les pleurs du bébé derrière moi, c'est-à-dire donc les femmes ramenaient leur bébé. Quand j'ai entendu les pleurs des bébés, il y a né en ce sens, hein, je traduis à peu près, il a dit, sa mère m'a fait de la peine. Alors j'ai raccourci de ma salat. Je voulais rallonger dans ma salat, mais ayant entendu les pleurs des bébés et yani, ayant pensé à la peine de sa mère, j'ai raccourci la salat et je l'ai fait yani, plus courte. On peut dire de ce hadith aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire de ce hadith que ce n'est pas shirk. Ce n'est pas shirk et association, comme croient certains, si je vais raccourcir la salat à cause d'une personne. Ou là, yani, rallonger ma salat à cause d'une personne. Pourquoi? Certains gens disent, quand tu es incliné, toi tu es imam, tu guides les gens. Ou bien tu es à la maison. Supposons que tu sois à la maison en train de prier. Tu étais malade ou là, tu n'es pas parti à la mosquée. Tu as prié à la maison. Juste, tu t'es incliné. Tu savais que ta femme allait rentrer, prier avec toi derrière toi. Mais elle a été occupée dans la cuisine. Ensuite, toi, tu t'es incliné. Elle n'est pas encore venue. Ensuite, elle est en train d'arriver et elle te dit de loin, attends-moi, ne te relève pas, attends-moi. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Normalement, tu allais te relever. Mais à cause d'elle, pour qu'elle attrape l'inclinaison, sinon elle n'attrape pas la raka, donc tu vas rallonger ta salat à cause d'elle. Tu vas attendre et dire, au lieu de dire 3 fois Subhanabil Adem, tu vas dire 6, 10, 15 fois pour que elle s'habille vite et elle s'incline. Certains gens disent, si tu fais comme ça, tu as fait du shirk. Pourquoi tu as fait du shirk? Car à cause d'elle, tu as rallongé la salat. C'est pas à cause d'Allah. Vous avez compris? Yani, quelqu'un qui n'a pas de sens, il va dire c'est vrai. Moi, j'ai rallongé ma salat à cause d'elle. Si c'était pas elle qui allait rentrer derrière moi, j'aurais relevé la tête. On lui dit, tu te trompes. Pourquoi tu te trompes? Ce n'est pas du shirk, c'est même de la sunna. Pourquoi? Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, raccourcissait sa salat à cause de qui? À cause des mères, à cause de leur bébé. Donc, comment qu'on va dire? On va dire, si raccourcir la salat, raccourcir sa salat, à cause de quelque chose de la dunya, les pleurs d'un bébé. Si raccourcir la salat à cause des pleurs d'un bébé, c'est permis. Alors, rallonger sa salat à cause d'une chose de l'au-delà, ce n'est pas seulement permis, c'est plus que permis. Vous avez compris le qiyas bil-aks, qiyas analogie par contraire. Si, je répète, s'il est permis de raccourcir sa salat, comme le prophète Hassan, il raccourcissait à cause des pleurs. S'il est permis de raccourcir sa salat à cause de quelque chose de la dunya, les pleurs des enfants et la mère qui fait de la peine. Alors, rallonger, c'est pas raccourcir. Alors, rallonger sa salat à cause de quelque chose de l'au-delà. L'au-delà, c'est que ma femme prie derrière moi et qu'elle ait des ajra. C'est encore donc plus possible. Vous avez compris? J'espère que c'est clair. Elle-même, tout ça pour vous dire quoi? Que c'est permis d'emmener les enfants à la mosquée, etc. Mais l'essentiel, c'est que yani, les garder devant soi, etc., pour qu'ils ne fassent pas les mashakil aux gens et aux vieux et aux vieilles qui vous savez, s'énervent vite et disent pourquoi vous ramenez vos enfants, etc. Elle-même, c'est pour cela que le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que beaucoup de gens racontent, qui dit, éloignez les enfants et les fous des mosquées. Jannibou masajidakum, ou quelque chose comme ça. Jannibou masajidakum, éloignez de vos mosquées les enfants et les fous. Ce hadith n'est pas authentique. N'est pas authentique. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, ça manque des choses. Et deuxièmement, il se contredit avec, vous avez remarqué, avec quatre ou cinq hadiths que j'ai cités authentiques où yani, les enfants allaient à la mosquée. Voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter là, inshallah ta'ala. Et on va se rencontrer, inshallah ta'ala, samedi, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.
Non, cher, une fois de l'écho avant de vous déconnecter. En me connectant ce soir, j'ai reçu un PV d'une personne qui a assisté au
La
cours
base virale VPS a
sur
été
les
mise à
châtiments
jour.
de la tombe. Et je vous lis ce qu'elle m'a écrit, cette personne. Donc, lors d'un cours, le cheikh a dit que les djinns entendaient les châtiments de la tombe. Il y a même eu une sœur qui a demandé pourquoi refusent-ils de croire s'ils les entendent. Et il a cité en exemple le fait que Shaitan savait la vérité, mais qu'il s'en était détourné, si je ne me trompe pas. Je suis tombé sur un hadith qui parle de l'hypocrite et l'incroyant lorsqu'ils seront questionnés dans leur tombe. Rapporté par Al-Bukhari, tome 2, page 102, et Muslim, tome 8, page 161, qui dit, je ne cite que la fin, entre guillemets, on le frappera alors avec des massues de fer, des coups si forts qu'il poussera un cri, tel que ce qui est dans ses alentours l'entendra, hormis les humains et les djinns. Elle me donne donc la partie en arabe. Donc je n'ai peut-être pas bien compris ce que Cheikh a dit, ou je ne sais pas s'il y a divergence dessus. S'il pouvait, Bédnina, expliquer. Voilà, Cheikh, pourquoi je voulais juste vous donner cette précision avant de vous déconnecter, Inch'Allah, pour clarifier la chose. Fadal, Cheikh.
Muslim, est-ce que tu m'entends? Alhamdoulilah. Pour être franc avec toi, je n'ai pas compris. Yani, je n'ai pas compris, disons, qu'est-ce qui ne va pas ou là où est la contradiction de ce qu'il a dit, ce que j'ai dit. Je n'ai pas compris, si tu peux m'expliquer. Tfadlal. Et si c'est possible d'afficher, si tu as le hadith en arabe. Tfadlal.
Non, la chose est, vous avez dit que les djinns entendaient les châtiments de la tombe. Entendaient les châtiments de la tombe. Et là, dans le hadith, il dit, on le frappera alors avec des massues de fer, d'un coup si fort qu'il poussera un cri, tel que ce qui est dans ses alentours l'entendra, hormis les humains et les djinns. Donc là, ça veut dire que ni les humains ni les djinns ne pourront entendre le cri qui est poussé par celui qui est châtié. Alors que vous aviez dit que les djinns entendaient la personne qui est châtiée dans la tombe. Voilà ce que la personne n'a pas compris. Fadal Cheikh.
Mouslim, est-ce que tu te rappelles du hadith que j'ai cité moi, qui dit le djinn entend quelque chose comme ça? Tfadlal.
Là, Cheikh, je ne me rappelle pas, mais je me rappelle de ce que vous aviez dit par rapport à ce qu'il entendait, ça je me rappelle du cours, mais le hadith cité, non, je ne me rappelle pas. Je ne sais pas si Fawzi ou Akh Mohamed ont le hadith. Tfadal Cheikh.
Je veux dire, c'est dans quel cours? Quel cours? On faisait quoi? Sur quel livre je me basais? Tfadlal.
Attendez, Cheikh, je suis en train de rechercher, Inch'Allah. Cher, c'était le même livre, Allah alam, c'était sur ce livre-là, et c'était le soir où vous aviez parlé de celui qui ne se purifie pas de l'urine. Et vous aviez parlé donc des châtiments de la tombe. Tfadal, Cher.
Mais moi, ce que j'ai dit, si j'ai une bonne mémoire, en citant le hadith, j'avais dit que il serait frappé. Je parlais que, yani, on pouvait pas entendre. Vous m'entendez? On pouvait pas entendre le supplice de Aksmane. Non. On pouvait pas entendre le supplice de la tombe. J'ai dit que si la personne, yani, avait entendu ça, elle serait tombée morte. J'ai dit, c'est pour cela que la personne, Inch'Allah ta'ala, n'entend pas, yani, le supplice de la mort. Sinon, si elle entend ce qui se passe dans la tombe, hein, personne ne vivrait. Tout le monde tomberait mort. Donc, est-ce que tu peux me dire où est toujours la contradiction? Je n'ai pas bien compris. Tfadlal.
Non, cher, donc toujours là-dessus, vous aviez dit, par contre, les djinns, eux, entendent. Vous avez dit les humains n'entendent pas, sinon ils tomberaient. Ça, je me rappelle très bien. Et vous aviez dit que les djinns, eux, entendaient le châtiment. Et la contradiction de ce qu'elle ne comprend pas, c'est que lorsqu'elle a lu donc le hadith sur la massue, là, il est précisé que ni les humains ni les djinns l'entendent. Tfadal cher.
Ah, d'accord, je comprends. D'accord, maintenant j'y comprends. J'ai entendu. Une seconde. Naam, il y a une réponse à cela. Naam, il y a une réponse à cela. Mais le problème, c'est que maintenant, je ne me rappelle pas la réponse. Il y a une réponse, même les savants ont dit que, attention ici, il y a une petite faute. Comme ça, ils disent. Il y a une petite faute dans, il y en a qu'il faut corriger dans le hadith. Mais là, maintenant. Je ne l'ai pas dans ma tête. Je ne l'ai pas dans ma tête. Mais Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, je vous dirai, Inch'Allah Ta'ala, comment y aller éloigner la contradiction. Comment éloigner la contradiction. Car je me rappelle que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et si j'ai une bonne mémoire, même Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a fait une petite remarque. Faut que je cherche où seulement, c'est dans quel livre, où il dit, attention ici, le hadith, il faut. Yani corriger, il faut corriger cette chose dans le hadith pour qu'il n'y ait pas contradiction. Mais je vous promets, Inch'Allah Ta'ala, que dans le prochain cours, je vous donnerai la réponse, car yani je l'ai, mais je ne sais pas seulement où elle est, dans quel livre, Inch'Allah Ta'ala. Je crois, Wallahu alam, c'est dans Aqidah al-Wasitiyah. Mais Inch'Allah Ta'ala, la réponse, vous l'aurez bi-idhni Rabbi, samedi prochain. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.